Rien, je suis mon état et ici, ça va mieux. Frank the Tank, mesdames, messieurs!
Hello!
Comment ça va, mon Frank?
Ça va bien, toi?
Ça va bien, content que tu sois là, mesdames, messieurs. Ouais, Frank ouais. is in the house, comme dans le bon vieux temps. Il manque juste Ben Gagnon puis Ian Richards. Ça aurait été comme un Radio Talbot d'époque.
Ouais, ça coûte trop cher quand on est tous là, tu sais.
Effectivement, tu sais, on n'a plus le budget. Non, non, écoute, c'est l'enfer. C'est content que tu sois là, mon Frank. Ça fait longtemps qu'on en parle. Je suis allé faire un tour chez Lightspeed une couple de fois avec notre ami Jean-Michel Venance pour oui. faire des tournages.
Mais ça fait longtemps que tu n'es pas venu, là, me semble.
Bien, là, c'est que la saison était arrêtée.
Mmh.
Fait que là, on va repartir ça, cette saison-là. C'est bien le fun. Je suis tellement excité que j'ai pas fait mes caméras. Je reviens tout de suite.
Je suis pas sûr que je peux te faire un beau bonhomme. Je vais te faire une face de Frank. Ben merci! Bon, Denis dit qu'il aime ma barbe. Je pense qu'il est dû pour un petit trim. Je pense que ma blonde serait d'accord avec ça. Mais effectivement, ça fait longtemps que je travaille. Puis de temps, je vais te faire une anecdote de barbe pendant que tu fais les caméras. Étant donné qu'à l'époque où on faisait Monsieur Net, j'avais pas vraiment de barbe, puis que maintenant j'ai une grosse barbe. Ça arrive à, maintenant qu'au lieu que le monde fasse comme « Hey, t'es Frank the Tank », c'est plus comme « Me semble que je te connais, toi. » Mais je suis plus vraiment sûr de où. Puis ils sont souvent un peu perdus, tu sais, comme ton fils quand je suis rentré qui m'a pas trop reconnu. Puis là, je me cache la barbe avec mes deux mains. Puis ils font « Hey, oui, là, je sais qui. » Fait que c'est comme ma technique pour être incognito, c'est la grosse barbe. Imagine all the people. Ouais. Je suis pas sûr que c'est exactement le look que j'allais pour de John Lennon, mais ok, c'est beau. Je suis bien heureux d'être content.
Ok, qu'est-ce qui est là à part ça? Est-ce qu'on est commencé à diffuser sur Twitch? Oui, on est là sur Twitch également. Salut, salut tout le monde. Comment ça va? À Geekette, Geekette, vas-tu bien? Il y a Stereo X avec nous, Brad également. La belle visite qui nous est. Oui, effectivement, on a de la belle visite. Allez, on commence ça tout de suite. Stand by, c'est Radio Talbot en direct partout au Québec. Et même ailleurs, avec Frank the Tank et Talbot. L'émission est rendue possible grâce à la participation de Microsoft Canada. Ouais. Radio Talbot est une présentation de HyperX, la bière Simple Malte, BrainPad Consulting, MoVR, vivez la réalité virtuelle, Moog Audio et CIPC. Oh yeah! Oh yeah, Frank the Tank, de la house, madame, messieurs.
Santé, santé.
Je suis énervé. Mesdames, messieurs, comment ça va avec les côtes liquides? Comment ça va? Talbot est là avec son ami, un chum. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. C'est Frank the Tank qui a accepté de participer à Radio Talbot. Check-zi-moi le poil. Regarde ça, regarde. Cette barbe-là, il y a combien d'années de pratique?
Je te dirais, ça a commencé juste avant la fin, Monsieur Net. Là. Fait qu'on est rendu à quoi? 2 ans et demi, à peu près? 3 ans?
À peu près, ça fait 2 ans et demi. Effectivement, ça va vite. Le temps file, ça n'a pas de maudit à l'heure. Et j'ai essayé de faire pousser de la barbe dans mon visage. Non, malheureusement. As-tu eu un résumé de tes nouvelles? Je les ai ici. Est-ce que tu les as?
J'ai essayé d'ouvrir sur mes tables. Denis, écoute.
Je suis tellement... écoute, je fallait que je te le demande, mais je savais que tu étais prêt. Mais au cas, on s'est dit, la technologie, des fois, ça peut lâcher. Comment ça va, vous autres? J'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à ce Radio Talbot historique pour moi, parce que ça fait un petit bout que j'avais rien fait avec notre ami Frank the Tank, qui a décidé donc de se joindre à nous exceptionnellement. T'es rendu où, Frank? Qu'est-ce que tu fais?
Je travaille à la même place que la dernière fois qu'on s'est parlé, je pense, Lightspeed.
Oui. C'est quoi ça, Lightspeed?
C'est une compagnie qui fait des solutions de gestion de commerce, bar, restaurant pour les gens qui ont des commerces physiques basés sur iPad dans le nuage.
OK.
Et qui fait aussi des solutions de vente en ligne si tu veux te faire un magasin de vente en ligne ou si tu veux faire un peu de tout, c'est-à-dire gérer ton magasin de détail et faire aussi de la vente en ligne. À la grande surprise de personne, je m'occupe d'une partie de leur infrastructure.
Mmh.
Je te dis.
Pourquoi ça ne me surprend pas partout? Frank de Tank puis des ordinateurs, c'est rare.
C'est rare. Fait que je m'occupe d'essayer de m'assurer que les nuages restent à la bonne place pour que les internets se passent bien dans les nuages.
La date, ça a l'air de faire une bonne job. À chaque fois que je vais te voir, tu n'es jamais là, par exemple. Parce qu'on tourne avec Planète Techno, comme je disais en intro, souvent dans des endroits différents, dont, entre autres, Lightspeed. On va faire un tour chez Shopify. On va faire un peu, tu sais, dans différentes boutiques, différentes boîtes qui s'occupent des boutiques ou encore qui ont un intérêt particulier pour l'informatique. On va tourner dans leur studio. Et j'avais une patate sur ton bureau, Roman.
Oui.
C'est quoi cette histoire de patate-là?
C'est un magasin sur les interwebs qui s'appelle potatoparcel.com.
OK. Okay.
Et c'est un de mes amis qui m'avait envoyé une patate. Parce que tu peux envoyer des messages écrits sur des patates de façon complètement anonyme. Okay. Fait que la personne reçoit une enveloppe brune avec une patate dedans puis un message écrit dessus.
Okay.
Et c'était une patate qui disait « Bonne fête, FT Tank » qui m'a envoyé pour ma fête. Et ce qui est arrivé avec cette patate-là, c'est que je l'ai laissée sur mon bureau vraiment longtemps.
Okay.
Puis elle s'est jamais mise à pourrir. Elle est comme restée là.
C'est vrai.
Puis clairement, l'intérieur était en train de s'en aller, mais la pleure avait pas écorché. Fait qu'elle puait pas, il n'y avait pas de pustule ou quoi que ce soit. Fait qu'elle restait, je pense, 6 mois de temps.
Tu l'as pu?
Non, je l'ai pu parce qu'à un moment donné, je partais en voyage pendant un mois de temps. Puis je me suis dit, si jamais il faut qu'elle pète et qu'elle se mette à puer pendant que je suis pas là, tout le monde au bureau va capoter puis va me crier des injures. Fait que j'ai demandé à mes collègues de l'acheter. Puis quand il a fait ça, il a dit qu'il s'est fait donner de la chenoute par le monde autour, parce qu'ils considèrent que c'est la mascotte de notre département, la patate écrit « Bonne fête, Frank de Tank ».
Il y a un paquet de gens qui nous écoutent, qui travaillent chez vous. Il y a beaucoup de francophones qui sont là. Quand je suis allé faire un tour, j'étais surpris de voir « Hey, salut, je t'écoute. Comment ça fait que Frank, il vient plus? » Mais Mandy, ils travaillent ensemble. Ben, je suis gêné, il y a une belle fille qui m'avait dit ça. Puis on va arrêter ça là. Hey, parlant de belle fille, aucun rapport. Parlant de belle fille, Lynn Boutillette qui va venir faire des trucs ici. Elle te fait dire bonjour d'ailleurs. On va remettre ça pour les jeux de table. Et puis des jeux qui permettent aux gens de se réunir autour d'une bonne bière et avoir du plaisir. Et ça va être intéressant, elle va revenir. T'as-tu vu ce qu'ils font avec son chum? Ils font des trucs. Steve, quand il strip des garis,
c'est une machine.
C'est une machine, on va dire ça comme ça. Et Steve et elle, ils font des jeux avec leurs enfants, tout ça, et des jeux de table, parce que Lynn travaille la distribution de jeux vidéo.
Oui.
Je pense que c'est pour le valet de cœur, je ne me trompe pas. Et elle a accès donc à une foule de jeux. Elle viendra les présenter ici. J'ai demandé de venir avec Steve. Dans quoi je me suis embarqué, je ne sais pas, mais on risque de rire beaucoup. Une autre gang que j'aime beaucoup, c'est la gang j'ai un blanc de mémoire. Jeff et Kim. excusez-moi, j'ai un blanc de mémoire. Jeff et Kim qui sont très impliqués dans le monde de Star Wars, tout ça. Ils sont ensemble depuis un bout de temps. Ils ont décidé de faire une autre exposition. C'est la troisième qui aura lieu à la Galerie d'art de Blainville, 29 et 30 septembre prochain, sans oublier le 1er octobre également. C'est une petite galerie d'art très chaleureuse. L'année passée, ils l'ont fait. C'est 4000 personnes qui sont allées là-bas.
Oh.
Et ce qui est bien, c'est tout à fait gratuit. Tout ce que Jeff demande, c'est que vous deviez membre de sa page web et ou de YouTube et ou de Facebook. Et allez faire un tour. C'est rendez-vous pour voir sa collection qui est assez incroyable. Merci. Je ne l'ai jamais vu de visu. Je l'ai vu sur des images qu'il pose de temps en temps sur les différents médias sociaux. Donc, Jeff organise ça 29, 30 septembre et 1er octobre, Galerie d'art de Blainville. C'est tout à fait gratuit. Il parle même d'ouvrir ça à des enfants du primaire ou des garderies un petit peu plus vieux.
Parlant d'art, Denis, si tu me permets.
Oui, je te permets.
J'aimerais faire un petit shout-out à Marie Bergeron.
Ah oui?
Je l'ai vu au Comic-Con
okay.
Cette année. Puis, on a acheté sa sérigraphie qu'elle a fait de Zelda, Breath of the Wild. Puis, on l'a acheté parce qu'on trouvait qu'elle était jolie. Puis, j'aime énormément son style à elle.
Ouais.
Mais là, maintenant que j'ai joué comme 70 heures, ou en tout cas, je ne sais pas combien d'heures, mais trop, à ce jeu-là,
ouais.
Je suis retourné voir son dessin ce matin.
Et tu as compris des choses?
J'ai compris un paquet d'affaires.
Voilà, man.
Parce qu'à la base, c'était toutes des belles choses qu'il y avait sur son dessin qui semblaient toutes bien aller ensemble. Mais j'ai remarqué après coup qu'il y a chaque élément dans son dessin a été choisi en fonction du dernier jeu et représente une chose que j'ai croisée dans le jeu ou des choses avec lesquelles j'interagis. Puis là, tout d'un coup, ça prend comme une toute nouvelle dimension. Mais c'était assez déjà bien uni à la base en termes de style, en termes de couleur, pour que ça se fonde comme un ensemble. Fait que je voulais lui faire un petit shout-out. J'adore tellement ce qu'elle fait.
Non seulement c'est une artiste, mais c'est également une grande geek.
Oui.
Elle aime tout ce qui se fait au niveau des super-héros. Elle joue beaucoup. Elle a joué avec Ian Richards énormément à Dark Souls. Puis moi, j'aime beaucoup son style également. Le poster de Monsieur Net qu'on m'a remis à la dernière, c'est elle qui l'avait fait avec des... Bon, elle savait que j'aimais Batman. Fait qu'il y avait un petit truc de Batman dedans. Merci, Marie, d'exister. Et on se croise pas assez. Je suis allé la voir. On a tout le temps gêné un peu. Allô, 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 un peu des signes. Mais il y a toujours plein de monde à sa table. Fait que c'est très, très cool. Encore une fois, je vous invite à aller faire un tour rapidement sur la page web. Si vous avez plus de détails de Jeff et Kim pour en savoir davantage. L'univers de Jeff et Kim, Expo d'une autre galaxie 3.0 sur Facebook. Donc, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Et Jeff fait un petit Facebook Live tantôt que j'écoutais en voiture. Seulement au niveau auditif.
Toujours.
Parce que sinon, ça ne marche pas. T'as-tu vu, à part ça, mon... attends un peu.
Pas mon Yann.
Non, Yann Richards, il voulait être ici aussi, mais c'est les vacances qui pour tout le monde. Myriam est en vacances. Laurent Lassalle était occupé ce soir. Puis quand il a vu que tu étais là, il était déçu.
Oui, j'ai vu qu'il a écrit, qu'il s'est dit, tant qu'à me faire remplacer par quelqu'un, remplacer par Frank, ça, c'est correct.
C'est effectivement très, très flatteur. Il est gentil, ce Laurent-là. Il y a des choses qui se passent du côté des États-Unis. Bon, ils ont un président un peu bizarre, un peu étrange. Je ne veux pas faire trop de politique là-dessus. Trump, c'est un malade mental, à mon avis, à moi, mais il suscite les passions autant d'un bord que de l'autre.
Oui.
Et Charlottesville, en ce moment, c'est fou ce qui se passe. Là. C'est absolument malade. L'Internet réagit, Frank.
Oui, l'Internet réagit. Puis en fait, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne le savent pas, mais il y a une grosse différence entre les règles sur la liberté d'expression au Canada et aux États-Unis.
Oui.
Au Canada, on a des lois contre ce qu'on appelle les discours haineux. Donc, si moi, aujourd'hui, je profanais mon désir de voir du mal arriver à un groupe de personnes précises, il y a des lois qui font que je ne peux pas juste souhaiter la mort de quelqu'un sur un forum public en toute impunité.
Ouais.
Aux États-Unis, ça n'existe pas. Donc,
ça s'appelle la liberté d'expression.
Où tu as littéralement le droit de dire ce que tu veux.
The First Amendment, c'est ça?
Voilà.
Ouais.
Et c'est des choses comme ça qui font qu'il y a quelqu'un qui peut se prononcer ouvertement à être l'ancien leader du Ku Klux Klan, puis qu'il n'y a personne qui peut l'envoyer en prison pour ça, même si, clairement, ce groupe-là souhaite des choses que, souvent, ne sont pas permises par la loi. On va être bien gentil, on va le dire de même.
Ouais.
On a eu des réactions, justement, aux événements de Charlottesville, où il y a différents fournisseurs de services Internet qui ont décidé d'appliquer leurs termes à la lettre. Parce que souvent, dans les affaires qu'on lit jamais puis qu'on clique sur le petit piton « j'accepte, I agree », il y a des clauses qui disent « sur notre service à nous, qui est un service entre guillemets privé, donc pas un forum public ou quoi que ce soit du genre, tu n'as pas le droit de d'écœurer les gens, de souhaiter la mort des gens, de avoir un comportement dit haineux. » Mais c'est rare qu'ils enforcent ça. Et là, on a GoDaddy, qui n'est pas reconnu comme une compagnie hyper politisée généralement, qui a décidé de tirer la plug sur un des plus gros sites néo-nazis qu'il y a aux États-Unis. Ils ont ensuite essayé de se revirer de bord, parce que c'est ça. En fait, ça s'appelle le Daily Stormer, puis c'était aussi un article en particulier qui, puis là, si vous êtes des âmes sensibles, désolé pour ce qui suit, mais le site se moquait du décès de la personne de Charlottesville ce week-end, qui, on s'entend, qu'on soit pour ou contre, se moquer du décès d'une personne, c'est mal placé.
Bien, ils avaient des propos tout à fait racistes également, d'extrême droite.
Oui.
Tout ce qui n'est pas américain ou qui a une couleur différente, qui n'est pas blanche, là, écoute, c'est ils haïssent.
Bien, ce site-là avait comme tagline « Preparing for the racial war since 2014 » ou peu importe quand ça a été fondé. T'sais, fait qu'eux, leur slogan, c'est « On se prépare à la guerre raciale ». Rien de moins. Mais c'est ça, GoDaddy a tiré la plug sur le site, leur a envoyé un avis de 24 heures, comme quoi que dans 24 heures, ça ne fonctionnerait plus. Ils sont virés de bord, puis ils ont essayé d'enregistrer leur DNS auprès de Google, qui a aussi tiré la plug. Donc, quand je suis allé plus tôt aujourd'hui, puis j'essaye de pas trop aller souvent sur ces sites-là tout d'un coup qui fonctionnent, puis que je leur donne de l'argent en pub, mais plus tôt aujourd'hui, quand la nouvelle est sortie, il y avait juste une erreur. L'Internet disait qu'ils ne trouvaient pas le site parce qu'ils n'avaient toujours pas trouvé de gens pour continuer à héberger leur DNS. Donc
j'ai même vu une missive électronique de nos amis d'Anonymous qui ont dit « They will never be up again ». Ils ne seront pas capables de se brancher, peu importe les tentatives qu'ils vont faire, à moins d'aller dans une république de bananes à quelque part.
Je trouvais ça intéressant de voir justement des compagnies essayer de dire « ben étant donné qu'on n'est pas justement la radio ou la télé publique, ou qu'on n'est pas un espace justement du bien commun, on va essayer d'utiliser notre droit en tant que compagnie privée et de dire, nous, on n'est pas obligé de tolérer le premier amendement mur à mur. On peut décider qu'il y a des affaires qu'on n'aime pas et que c'est bien correct, mais surtout que c'est vraiment juste orienté vers le discours haineux. Ouais. Parce qu'encore une fois, c'est une pente glissante quand on essaie de contrôler le discours des gens ou des groupes. Parce qu'on pourrait très bien dire
c'est de la censure. On fait de la censure. On est des gens qui censurent l'expression. C'est la liberté d'expression. La ligne est mince.
Elle est très mince. Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec ce que quelqu'un dit que ça l'empêche d'avoir le droit de dire ça. T'sais, il fut une époque où les gens se faisaient chasser par l'Église parce qu'ils disaient que la terre était ronde. Donc c'est là où, justement, que la réaction ait pris l'angle uniquement de discours haineux, donc on n'approuve pas. Je trouve ça intéressant parce que c'est, je trouve, la petite ligne mince qu'il y a où on peut dire ce genre de discours-là, on le tolère pas, mais ça va en discussion constructive, puis me dire que je suis un épais, tu peux me dire que je suis un épais, bien, en partant, je suis un épais. Fait que, tu sais, on va bien s'entendre.
mais
quand tu commences à m'attaquer, là, il y a un problème.
Exactement, mais il y a quelqu'un qui est mort là-dedans. Il y a un cave qui a foncé. J'ai les vidéos, je voulais la faire jouer, puis je dis non, je ne la jouerai pas. C'est d'une violence incroyable et c'est tout à fait gratuit. Tu sais, puis là, tu as Trump qui dit hey,
les deux avaient des torts. Mais les deux avaient des torts.
Il a commencé par dire ça. Okay. Après ça, il a dit qu'il dénonçait
la violence.
Les racistes et les white supremacists, ceux qui veulent la suprématie raciale des Blancs. Je pense que c'est même ça se traduit.
Ouais, ouais.
Puis aujourd'hui, il a encore changé d'idée. Bref. Fait que, lui, c'est pas fort, mais c'est ça. Il y a quelques compagnies qui ont décidé pour une fois, parce que Twitter, on l'avait reproché longtemps, de permettre aux gens des campagnes de haine, de pas bloquer les usagers, de rien faire. Mais là, pour que les fournisseurs de DNS et de hosting et compagnie commencent à mettre leurs culottes, je trouve ça intéressant parce que ça n'a pas d'allure la quantité de haine qu'il y a sur Internet qui est juste comme acceptée comme étant quelque chose qui existe.
Puis le pire, c'est qu'il y a un gros clown jaune-orange qui est sympathisant indirectement ou directement à ces genres de trucs-là. Ça fait juste donner du gaz à ces groupes-là qui vont faire en sorte de mettre les villes à sang et à sac pour une question d'idéologie qui semble être endossée par le fameux président en question. On est bien aussi.
Oui, vraiment.
On est vraiment bien, sérieux, là, en tout cas. D'autre part, il y a M. Elon Musk, moi, j'aime énormément. J'aime ses idées. Il est partout. Il essaie d'innover. Il veut être vert. Puis, il va aller sur la planète en lui pensant bien du gaz. Mais, non, mais tu sais, c'est un gars qui a une certaine vision. Mm-hmm. Et, encore une fois, il a son projet est intéressant à M. Son truc d'intelligence artificielle, je sais que tu suis ça pas mal, l'IA, j'imagine, l'intelligence artificielle, tu dois suivre un peu ce qu'il fait.
C'est drôle, en fait, parce que d'un côté, il travaille très fort sur tout plein de systèmes d'intelligence artificielle, puis de l'autre côté, constamment, il dit aux gens, faites vraiment attention à ce que vous faites avec l'intelligence artificielle.
Mais sa dernière expérimentation, si on veut, ça a été avec un champion de Dota 2.
Mm-hmm.
Son projet OpenAI a été le premier système à battre un champion de e-sports lors d'une partie donc de Dota 2. Et écoute, c'était un contre un. Il jouait contre ce fameux champion-là en question. Et la machine a réussi à battre l'homme.
Et quand on regarde quelles sont les cagnottes pour la première place des tournois internationaux de Dota 2, ça devrait être assez facile de rentabiliser ce bot-là s'il peut obtenir ou d'entrer au tournoi.
Mais écoute, là, c'était du 1 contre 1. On explique une petite vidéo qui est faite qui s'appelle OpenAI Dota 2. Je t'écoute un coup d'œil là-dessus, c'est sur YouTube. Ils expliquent que c'était un match 1 contre 1 et le joueur en question dit, moi, j'ai appris énormément en le regardant jouer. Il y a des trucs que je ne faisais pas, que maintenant je vais faire parce que la machine, elle, il va de façon logique et se base sur mes mouvements, moi, pour réagir. Donc, j'ai appris des trucs et c'est très cool de voir ça. On a que des extraits du match, par contre. J'aurais aimé ça voir la game au complet, voir comment ça se déroulait, tout ça. Mais il y a des moments où tu l'entends, c'est ce qu'il a fait. Ah, wow, c'est cool. Ah, ben oui, gagnons. Tu sais, c'est un match 1 contre 1. Là, le prochain défi pour M. Musk, c'est de faire des matchs 5 contre 5.
Ouais.
5 AI contre 5 humains.
Et puis là, ça va être la coopération entre les 5 AI qui risque d'être complexe.
Exactement,
aussi.
Exactement. Puis il fait bien sûr, pour faire ce genre de truc-là, ça prend énormément de serveurs. Mm-hmm. Il y a eu beaucoup de réflexions. dans le nuage. Ils sont servis d'Azure de Microsoft pour faire ça, justement. Mais paraît-il que le résultat est assez surprenant. Et le gars qui joue le champion en question s'est dit « Hey, c'est un bon adversaire. J'avais l'impression de jouer contre un humain et non pas contre une machine. »
Ce que je me demande, moi, après ça, c'est est-ce qu'on va commencer à voir des matchs humains contre ordinateur? Parce que veut pas, même si c'est une intelligence artificielle qui apprend, ouais. éventuellement... Si les joueurs sont assez attentifs à son style, ouais. il va y avoir des patterns qui vont se développer, comme n'importe quel humain. Quand tu es habitué de jouer contre quelqu'un ouais. d'autre, tu finis par apprendre un peu comment il pense. Donc, si tu joues assez souvent contre un AI, est-ce que tu vas être capable de finir par comprendre comment l'AI pense, puis que là, tu vas développer une aptitude
pour
juste déjouer. Contre celle-là.
Ouais,
pas l'autre à côté, juste celle-là.
Tu vas jouer, mettons, middle lane, puis l'AI qui joue middle lane, tu regardes comment... tu vas comprendre ouais. comment ça marche. Mettons qu'on joue à League of Legends ou n'importe quoi, ça peut être la fun. Je sais pas. Là, c'est pour Dota, et on va sûrement faire des tests avec d'autres jeux, d'autres trucs, mais
ça doit être costaud d'essayer justement d'apprendre un nouveau jeu à ces AI-là parce qu'il y a tellement de paramètres dans ces choses-là puis de variables. Puis de...
Ben, écoute, paraît-il, ça s'est fait assez rapidement. En moins de... T'as un petit peu, j'ai l'information ici à quelque part. Je pense que c'est 2 semaines et demie. Et l'IA savait qu'on comprenait le jeu comme il faut et savait comment réagir. Donc, c'est intéressant. C'est, comme tu disais tantôt, je trouve ça un peu bizarre de voir Musk qui avertit les gens qu'éventuellement l'IA va prendre le contrôle de la Terre puis fait des recherches là-dessus. Beaucoup. Puis,
en même temps, peut-être qu'il veut s'assurer d'être le meilleur ami de l'IA qui va prendre possession de la Terre et de garantir une survie de sa propre personne de cette façon-là. T'sais.
Mais écoute, c'est intéressant de voir où ça s'en va. Et puis, ouais. C'est malade. Là. Hey, Dota 2, 23 millions de dollars la dot. Le prix.
Mais c'est pour ça que je te dis, hein? Ça va vite. 23
millions.
Ça va vite payer ta R&D quand ça coûte 23 millions.
Hey, c'est fou. D'accord. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec tout ça, mais la prochaine étape, ça va être de jouer 5 contre 5, 5 IA contre 5 humains.
Et tout puis ça, après ça, moi, je vais voir des batailles d'IA.
Oui. Ah, hey, man! Hein? Ça va être cool, ça. Ça va être très, très cool. Mais, écoute, c'est juste le début. On est dans les balbutiements de cette histoire-là. C'est à suivre. As-tu écouté la fameuse... Je veux avoir ton avis là-dessus, la fameuse série... voyons, sur Netflix, les dessins animés, j'ai oublié le nom.
Castlevania.
Tu as suivi ça? Je sais que tu étais un fan à l'époque de Castlevania.
Écoute, ça fait... Je te dirais pas que je suis un expert de la franchise. Là. Je pense que ça prendrait un Bruno Georget de ce monde pour mieux jouer ce rôle-là. Mais quand même, étant un tout petit pas barbu, j'ai joué au vieux Castlevania, c'est ça. Et j'étais curieux de la série parce que j'avais entendu des bons commentaires.
Ouais.
C'est juste 4 épisodes.
Ouais.
Ça va super vite. Puis honnêtement, au début, j'ai écouté le premier épisode, puis je me suis dit, OK, non, c'est parce qu'il y en a juste 4, puis c'est comme à peu près rien passé. Fait que je vais me rendre à la fin de cette série-là, puis il va s'être à peu près rien passé. Et effectivement, il se passe pas grand-chose dans la saison 1 de 4 épisodes.
On installe les personnages.
On installe, puis à quelque part, ça me dérange pas. Au début, je pensais que ça allait me laisser sur ma faim, mais le rythme est quand même relativement constant, puis il arrête à un endroit... qui, si on veut, fitterait l'introduction d'un jeu. Okay. C'est comme si on avait fait le tutoriel, dans le fond, d'un jeu de Castlevania.
Regarde, c'est drôle que t'en parles. Je l'ai justement ici. Check bien ça, mon mec, je te fais jouer ça. Alors donc, un tutoriel qui... attends un peu, ça va y avoir un petit blanc. Là. Ça sera pas long, mais la machine et l'intelligence artificielle. Hein? Attends un petit peu, on va le placer ici. Donc, on est sur une vieille console pour commencer à jouer, c'est ça?
Ça ressemble un peu à ça. Et en fait... Ce que je trouve le fun dans cette série-là, c'est que quand ça commence, puis là, ben, oui, je vous fais un spoiler des 10 premières minutes du premier épisode, là, mais déjà avec, là.
Spoiler!
Ça nous présente un Dracula sympathique.
Ah, il est fin?
Ben, tu vois qu'il est clairement pas le gars le plus gentil au monde, mais quand t'écoutes le premier épisode, tu te dis, j'ai pas l'impression que ce gars-là va être le pas fin dans mon histoire. Puis je comprends pas, parce que, tu sais, c'est Castlevania, puis il est Dracula. T'sais, d'habitude, c'est pas tout le temps lui le plus gros pas fin, mais c'est
ouais,
pas... Puis... Ça continue un peu dans cette lignée-là, puis là, je vais arrêter là, parce que vu qu'il y a juste 4 épisodes, si je vais trop loin dans l'histoire, ça va être un spoiler de toute la saison complète. Mais je trouve ça vraiment le fun comment le personnage Dracula est amené et est traité. Après ça, la série fait un peu dans certains stéréotypes, mais les personnages restent quand même un peu sympathiques, puis il y en a qui ont une profondeur un peu plus grande que ce à quoi je m'attendais.
OK.
Fait que tant aussi longtemps que ça leur prend pas un an et demi avant de sortir un autre épisode, parce que là, je vois, étant donné qu'il y a juste eu 2 heures, même pas de contenu, c'est sûr que je vais avoir tout oublié. Mais sinon, moi, je suis content. Ça me laisse un peu sur ma faim. Puis je trouve que d'habitude, la barre est pas trop haute quand j'ai quelque chose basé sur un jeu vidéo, parce qu'on s'entend, là. On se souvient tous du film de Mario Bros. Hein?
Oui, c'était super long.
Mais celle-là, ça m'a... J'avais une barre un peu plus haute, étant donné que j'avais eu des bons commentaires, ouais. Et j'ai quand même été agréablement surpris du résultat de la série.
Donc, on n'a pas la date pour la prochaine série de petits épisodes. Là. Ouais. J'ai hâte de voir ça, mais je pense que ça ne serait tardé. D'autre part, m'en va au PAX West. T'es déjà allé, toi, au PAX? Je sais que t'es un grand fan du PAX. T'es allé faire un tour à PAX East souvent.
PAX East, ouais.
Comment ça se passe dans un PAX? C'est-tu un peu comme le E3, à peu près?
Ben, j'ai jamais été au E3. Okay. C'est sûr qu'à ce niveau-là, je suis pas 100% certain, mais je te dirais, je pense pas. À PAX, c'est comme si t'avais trois événements parallèles en
okay.
un.
OK.
Parce que t'as un show floor, ouais. qui, là, va ressembler un peu à un E3, parce que c'est là où tu vas avoir... tu sais, genre, l'année où Evolve est sorti, il y avait la statue géante de la grosse bébite puffine dans Evolve sur ouais. le plancher avec le boot en dessous où tu peux essayer le jeu puis tu fais une file de 2 heures de temps pour ouais. jouer 10 minutes. Fait que ça devrait te rappeler un peu un 3.
Oui.
fait que t'as ça pour tous les gros jeux. T'as une section indie, t'as, tu sais, différents stands comme ça pour à peu près tous les gros joueurs, les gros studios, différentes compagnies de gaming aussi en général, des indies, petits, moyens, grands.
Okay.
Parce que maintenant, on est rendu avec des relativement gros indies.
Ouais.
Mais tu as aussi après ça une autre partie du plancher qui fait juste du jeu de table. Fait que là, tu vas avoir des exposants de jeux de table et une super grande aire où c'est juste des tables. Ben, remarque, ça, c'est East. Je me suis fait dire qu'à West, le pied carré était un peu moins grand. Mais j'imagine...
Que c'est moins grand, mais dans la ville, tu me disais tantôt, il y a beaucoup plus d'actions.
Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que c'est ça. Il y a beaucoup okay. plus d'événements périphériques.
Okay.
Donc, tu as aussi une zone, c'est ça, jeu de table, où là, tu peux essayer un paquet de jeux. Puis c'est une affaire qui est le fun. Tu peux aller là avec tes chums, si vous avez des tripeux de jeux de table, aller louer des jeux, puis essayer ça, puis ensuite te revirer bord, puis l'acheter s'il te plaît.
Okay.
Parce que le gars qui te fait essayer le jeu, bien sûr, il te le vend aussi.
Ben oui.
mais t'as aussi tout plein de créateurs de jeux de table, fait que là, ils peuvent t'expliquer leur jeu, peuvent t'aider à comprendre ces mécaniques plus rapidement. Et t'as aussi, en plus de tout ça, un paquet de salles de conférences où là, tu vas avoir différents ateliers avec différentes personnes sur une panoplie de sujets. La conférence de Gearbox, d'habitude, c'est vraiment du fun parce que Randy Pitchford, le CEO de Gearbox, c'est un ancien magicien professionnel.
Oh!
Et c'est un gars qui s'habille incroyablement mal.
Ah oui?
Oh oui, la chemise hawaïenne là, dans le tapis. Mais il va se pointer sur la scène, te faire 2-3 tours de magie.
Nice.
Puis qui sont bien faites, c'est bien ça le pire. Là. et après ça, t'as parlé de son jeu. Mais habituellement, il commence par la magie.
Ben, ça... Écoute, t'as une audience devant lui qui est déjà vendue un peu. Fait que ouais. Tout magicien rêve, amateur rêve de faire un spectacle. Devant... Puis lui, peut se le permettre.
Il peut se le permettre. Toi, la dernière fois que j'étais allé, l'année dernière, on était allé à une discussion avec les créateurs, ben, une partie des créateurs puis du staff de Cards Against Humanity, qui était juste un festival de n'importe quoi pendant une heure. Le premier, je pense, c'était 10 minutes de la conférence. Il y avait juste un gars qui avait laissé son laptop projeté sur l'écran
okay.
avec Mail, l'application de courriel dans macOS d'ouverte.
Okay.
Puis là, ça a pris comme 2 minutes avant que le monde réalise que c'était live. Fait que là, le monde se mettait à envoyer un paquet d'emails pour que ça ding, 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 puis que ça apparaisse dans les sujets. Puis le monde avait des conversations entre eux autres dans ce thread-là. C'était du grand n'importe quoi. Puis ils ont juste raconté des niaiseries. À un moment donné, ils ont pris des suggestions de cartes. Puis là, comme Cards Against Humanity okay. fait si bien, ils riaient de la moitié des suggestions du monde, genre maudit ton idée est cave. Mais tu sais, on s'entend là de façon quand même correcte. Tout le monde trouvait ça drôle. Là. C'était pas la personne ne repartait pas en broyant. Mais puis c'est ça, t'as tout plein de discussions avec des créateurs de jeux. T'avais eu à l'époque la gang de Deus Ex Human Revolution
ouais.
qui était descendue à Boston.
Qu'on salue d'ailleurs.
Ouais. et qui avait fait justement une discussion autour du jeu. Je pense que c'était un an avant qu'ils sortent, quelque chose comme ça, pour parler de leur processus de création, de comment ils avaient fait ça. Puis c'est ça, t'avais...
Viens donc. Ça serait le fun, hein?
C'est quand?
C'est 31. On parle de 31, puis on revient le 4.
Tu veux dire dans genre 2 semaines? Là?
Ouais.
T'es malade dans ta tête?
Ah oui, t'en reviens, non. On aurait du fun, man. Seattle, come on!
Hein? Il y a même plus de passe, anyway.
Ah, pas grave, moi j'en ai, moi. Moi, je suis un média. Gros média. On a des passes grâce à HyperX. D'ailleurs, ils vont lancer des nouveaux casques, des nouveaux trucs là-bas.
OK.
Fait qu'on va en profiter pour aller faire un tour à nos amis d'HyperX qui donc vont nous accompagner pendant ce périple. On va faire des Facebook Live de là-bas. Le bill de téléphone, on s'en sac.
C'est pas du téléphone, c'est Facebook Live.
Non, c'est des données.
Oui.
Ben, ça vient, mon forfait cellulaire, si tu veux. Mais ben là, écoute, je vais prendre le truc de Bell, là, 30$ par minute. Donc, on 30$ combien? C'est 30$ pour la semaine, hein, c'est ça?
Ça va dépendre de ton plan, mais...
Bell, appelle-moi Bell.
Dieu merci, maintenant, ouais, les frais de... j'ai juste roaming dans la tête, là. C'est quoi en français déjà?
De roaming, c'est des faits de. Oui, je sais, de ce promenage à l'extérieur du pays.
Oui, ça. Mais il y a un nom pour ça.
D'itinérance. Oui, les frais d'itinérance.
Voilà. Les frais d'itinérance sont beaucoup moins élevés qu'ils l'étaient il y a quelques années. Dieu merci. Merci.
Ben, viens donc, pense à ça, là. Pense à ça. J'attends des billets. Puis, si on voit les enforcers, je sais que tu cours vite. Il n'y a aucun problème. Parce que les systèmes de police, les gars, ils se prennent au sérieux, hein, des fois.
Oui, non. Mais ça, à quelque part aussi, c'est correct.
Ah ouais.
Entre autres, quand PAX avait commencé au début. Quand ça avait commencé à devenir un peu plus gros, ils s'étaient mis à avoir les bons vieux concepts de Boot Babes à PAX.
Ah.
Et là, les organisateurs ont demandé à la communauté, est-ce que ça vous dérange ou pas? Et la communauté a dit, on aimerait mieux pas. Donc, ils ont laissé interdire les Boot Babes, mais ils ont laissé ça aux gens qui allaient à la conférence.
Excellente idée. Parce que souvent, les pauvres filles, là, ils se font harceler par des caves, là, toutes sortes de niaiseux qui sont là, des gens qui n'ont jamais vu une fille. On dirait qu'ils sortent en dessous d'une roche. Et souvent, c'est le cas. ils vont là, puis une fille!
Mais là, tu avais autant des gens qui disaient, ben, tu sais, j'amène mes enfants en bas âge, je trouve pas ça super approprié. Puis là, ça, c'est un sujet de discussion à part. Mais tu avais aussi des filles qui disaient, ben, moi, j'aurais porté un cosplay de ce même personnage-là, puis je veux pas que les gens m'abordent comme les Boot Babes sont abordés. Fait que, tu sais, les Boot Babes sont un peu payés pour pas répondre aux gars qui sont un peu tout croche, malheureusement.
Ou ils ont des petites réponses qui vont leur clore le
oui, parce qu'ils
sont, discussion assez rapidement,
sont à quelque part un peu malheureusement habitués à ça.
Ouais.
Mais t'as des filles qui allaient là qui disaient ben moi je me sens pas à l'aise, puis tu sais je suis pas outillé pour répondre à ça, je veux pas avoir à dealer avec cette comparaison là.
Ouais. Ouais.
Donc ouais, la communauté avait décidé pas de Boot Babes.
Oh bien fait. On était assis dehors l'équipe de Monsieur Net puis. On avait un caméraman qui fumait. Fait que, tu sais, on travaillait des 10-12 heures par jour. Fait qu'à un moment donné, je peux aller fumer, on va s'asseoir dehors. Il passe sa cigarette. Et puis là, il y a une fille qui est assise là, qui demande du feu. Tu sais, c'est visiblement une Boot Babe. Fait que, il commence à jaser avec. Puis à un moment donné, il part arriver. Il me dit, ouh. Il dit, quoi? Ben, elle me demandait, c'était où Montréal? Ça se peut.
Ouais.
Ça se peut. Fait qu'il dit, c'est au Canada. OK. Canada, where's that? T'sais, c'est quasiment ça. C'est un peu gênant.
Un petit peu gênant,
mais c'est pas grave. D'autre part, sur Internet, paraît-il qu'il y a des gens qui chialent.
Oui, oui, non, puis...
Ça chiale pas mal.
Ça chiale pas mal, mais là, j'ai trouvé aujourd'hui une excellente entrevue avec un des... je pense que c'est un des cofondateurs. Le fondateur de Hinterland.
Hinterland, qui est une compagnie qui vient de lancer un jeu, d'ailleurs, qui s'appelle...
The Long Dark.
The Long Dark. J'ai eu une clé de ça, d'ailleurs. Ils sont en restructuration, paraît-il, en ce moment, suite probablement à tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui arrive exactement avec ce monsieur?
Là, cette entrevue-là, ça parlait de... il y a eu une autre entrevue où il lui demandait comment tout le processus de création s'était passé.
Ouais.
Puis, au travers de cette entrevue-là, à un moment donné, une des questions, c'était... comment est-ce que ça a été avec la communauté et tout le kit? Puis, est-ce que à un moment donné, il demande, est-ce que tu pourrais me donner un exemple d'un moment qui s'est pas passé comme tu aurais aimé? Et là, le gars est parti sur une histoire que tu voyais qui était un sujet auquel il avait beaucoup réfléchi, puis qu'il faisait attention de peser ses mots et tout. C'est de même que c'est décrit dans le blog, là. C'est pas moi qui...
C'est très bien écrit, d'ailleurs. On vit vraiment ce que le gars a ressenti.
Ouais.
Explique un peu pourquoi il y a cette entrevue-là.
Ben, il parle d'un moment où ils ont décidé qu'ils allaient faire une campagne pour teaser un peu d'avance une annonce, qui disait pas c'était quoi l'annonce, alors que eux s'enlignaient pour être dans le dernier stretch où ils allaient commencer à faire toute la force de polissage pour enlever les bugs, finir l'histoire, toutes ces choses-là.
Offrir un produit intéressant.
Fait qu'ils annonçaient ça, puis ils annonçaient que le jeu allait sortir sur PlayStation 4. Fait qu'il avait dit, dans 22 jours, on va vous annoncer quelque chose de le fun. Puis là, tu sais, 21, 20, 19, etc. Et il y a une partie de la communauté qui s'était mis à dire, sont bien mieux d'annoncer que le jeu, il est fini puis que je peux l'avoir maintenant parce que je suis effing tanné.
Ouais.
Puis des discours un peu moins positifs de même. Puis le fondateur dit, au début, je me suis dit, c'est une minorité de la communauté. Je veux pas ruiner le punch pour tout le reste du monde.
Attendez comme les autres. Puis...
En leur disant ce qui s'en vient ou en leur donnant plus d'informations. Fait qu'on va juste laisser ça aller pour tout de suite. Et ce qu'il dit, c'est qu'avec le recul, il n'aurait pas dû faire ça du tout parce que après ça, ces gens-là qui étaient déjà en colère ont juste explosé quand l'annonce du fait que le jeu s'en venait juste plus tard a fini par arriver. Et il dit lui-même, c'était, je pense qu'ils en ont donné 0.1% ou 1%, quelque chose de, t'sais, d'infime de la communauté qui a réagi de cette façon-là, mais que ça a été tellement intense que lui, il ne va juste plus sur Reddit. Parce qu'il dit, il y a certains sites où je me retrouvais où non seulement les gens me rentraient dedans, et il dit de façon personnelle, il attaquait pas la compagnie, il attaquait lui.
Ouais, c'est ça.
Mais il dit, en plus de ça, la communauté semblait pas trouver ça anormal. Semblait trouver que c'était tout à fait correct que les gens puissent avoir le droit d'attaquer personnellement d'autres gens.
Mais tous ceux qui ont fait déjà des médias sociaux pour les jeux vidéo, tous ceux que moi je connais, il y en a plusieurs dans notre cercle d'amis, Frank, qui vivent ça de façon quotidienne.
Oui.
Nous, on appelle ça le 3%. Tu sais, t'as 100% du monde là, qui sont dans ta base.
Mm-hmm.
T'en as 3% qui vont trouver le moyen de faire chier le 97% et les créateurs aussi, les concepteurs de ce jeu-là. Tu sais, qui ont mis peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans de leur vie là-dedans.
Ouais. Mais ce qui est intéressant dans cette entrevue-là, c'est que c'est vraiment, c'est ça, à quel point il pèse ses mots puis qu'il...
Il réfléchit, tu vois qu'il a pensé à son truc.
Puis c'est pas une réaction passionnelle du tout, c'est vraiment... hyper rationnel, puis essayer de voir, tu sais, il admet ses torts dans ce qu'il a, lui, mal géré, puis il dit qu'une partie du problème, c'est que quand il a essayé de formuler des excuses, il y a une partie des gens qui étaient en maudit, qui ça l'a mis encore plus en maudit parce qu'il disait que c'était pas sincère, puis que, rendu là, il savait juste plus quoi faire, là. Je veux dire, quand tu fais des excuses sincères, puis que ça met les gens en maudit, qu'est-ce que tu fais?
Regarde.
Fait que c'est là où...
T'arrêtes d'aller sur Reddit, ben, puis tu fermes la Switch. C'est ça qu'il a fait.
Fait qu'il... Puis... Il mentionne aussi qu'il est pleinement au courant que ce qu'il a eu, là, c'est une goutte d'eau comparativement à ce que certaines personnes ont eu. Fait qu'il dit lui-même, tu sais, je suis pas en train de me plaindre puis d'essayer que les gens aient pitié, puis je fais juste soulever un problème que je trouve qui est pas normal.
Tu sais, hier, regarde, je te donne un exemple. Hier, je faisais des tests parce qu'on commence, on va réutiliser YouTube pour une portion de Radio Talbot, puis je faisais des tests pour voir si les cartes de diffusion fonctionnaient bien.
Alors, t'as pas eu un bug, là?
Ah non, j'ai pas eu de bug, c'est super clean. J'ai ajusté mes patentes. Et il y avait 167 personnes qui étaient là, qui regardaient, tu sais, qui m'ont fait des... Mais là, il y a eu deux commentaires négatifs. Quelle petite plate de diffusion de calice. Puis là, vraiment, des insultes, mon vieux. Parce que je faisais un test, voir, tu sais, avant d'aller sur YouTube, tu fais des tests, tu regardes tes affaires, bon. Hey, le gars, hein, tu sais... Moi, j'ai même pas eu besoin de répondre. Les autres ont répondu. Ça va-tu? T'as-tu pris tes pilules aujourd'hui? C'est un test qui fait relax, le gros.
Mais c'est ça que, justement, ce développeur-là soulignait comme étant un problème sur certaines plateformes. C'est le fait que les gens sont rendus qu'ils trouvent ça normal. Ouais. Il dit qu'il reste en contact avec sa communauté de toutes les façons qu'il trouve constructives. Parce qu'à partir du moment où la communauté le supportait contre, justement, des gens comme ça, il dit, moi, je vais pas m'en aller parce qu'il y en a qui sont pas contents. Mais il dit vraiment... S'il y a une place où les gens trouvent ça normal qu'il y ait de la haine, moi, ça ne m'intéresse pas.
Ben non, c'est comme si on banalisait ça, mais il y a des trucs vraiment hard qui se disent. Quand c'est rendu que tu attaques un gars de façon personnelle et tu te caches sous ton pseudonyme de Patate 33.
Oui, c'est ça.
Tu sais, le fameux Patate 33.
C'est pas quelque chose contre les patates, toi.
Non, c'est ça. Mais qui t'attaque, tu sais, puis il s'en prend à ta famille ou n'importe quoi, tu sais, puis...
Écoute, tes enfants doivent bien cave parce que ton jeu vidéo n'est pas fini. Parce que bien sûr, ces deux choses-là sont super reliées.
Mais à un moment donné, pour avoir connu, côtoyé des gens qui travaillaient justement dans ces communautés-là, à un moment donné, ils deviennent... C'est pas vrai que tu deviens imperméable à ça. Tu y penses. Tu auras 1000 messages qui vont dire « Hey, bravo, c'est cool, c'est félicitations, tu mets beaucoup d'efforts, on attend ça avec impatience, whatever. » Mais le trou de pète qui t'a fait le commentaire élevé, c'est lui que tu vas regarder dans ta tête. Et ces gens-là me le disent. J'aurais le goût de le bannir à vie, mais je peux pas. Je peux pas. La liberté d'expression.
Oui. Mais, tu sais, encore une fois, j'ai pas problème avec la liberté d'expression. Le discours haineux, ça... Tu sais, dis que le jeu, il est plate parce que les mécaniques sont mal implémentées. Va dire que les animations faciales sont pas correctes parce que le gars, il louche pendant qu'il parle, comme
ça,
quand on joue à Mass Effect, hein, pour ne pas le nommer.
Ouais.
J'ai pas problème à dire que les animations étaient un peu de la chenoute parce que, factuellement, je trouve que les animations étaient un peu de la chenoute.
Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas.
Mais je pense pas que c'est parce que toute la gang qui était là-dessus, c'était des caves.
Non.
Il y a sûrement eu un paquet de raisons sur ce projet-là qui ont fait que le jeu final, je trouve qu'il est vraiment pas à la hauteur de ce qu'il aurait dû être. Je trouve que pour le temps qu'ils ont mis là-dessus puis le budget qu'ils ont dû avoir, ce jeu-là ne livre pas la marchandise.
Ben, quand tu grattes un peu, puis quand tu connais l'industrie, il y a des luttes de pouvoir à l'interne, tout ça, nous, on n'est pas au courant de ça. Mais ça arrive.
Puis c'est au final, ça peut pas être la faute individuellement de tout le monde. Ça se peut pas que tout le monde qui a travaillé sur ce projet-là, c'est des caves.
Non. On les connaît, les créateurs de jeux, Frank. T'as travaillé chez Ubi, t'as travaillé à plusieurs endroits.
Il y en avait-tu des caves? Oui, comme partout. Oui, il y a des caves, mais ils sont pas toutes caves, non, comme partout. Il n'y a pas juste des caves, où que ce soit.
Non, c'est ça.
Fait qu'arrêtez de traiter tout le monde de cave. En tout cas.
Bon. Hein? On l'aurait dit.
On l'aurait dit.
Ça ferait un beau T-shirt, hein?
Arrêtez de traiter tout le monde de cave.
C'est ça. Aïe, aïe, aïe.
Ah, mais tu vois, ça me fait penser à une super banderole que j'ai achetée pour la fête de 1 an de ma nièce ce week-end.
C'est quoi donc?
Qui disait « Maudit que c'est le fun que t'existes ».
Ah, c'est bien cute, ça.
Hein?
Ça fait un beau T-shirt.
Parce qu'on s'entend, à 1 an, elle fait pas mal juste ça exister, là.
Oui. Est-ce dans les couches, puis dans, là-dedans, puis tout ouais, ça, c'est agréable, hein?
Ça
regrande son papa.
Bon, moi, je peux pas dire que j'y connais grand-chose, là, parce que c'est ma nièce, là.
Mais quand même,
le peu que je suis exposé, ça me fait super.
C'est ça qui est le fun quand t'es oncle, là. Tu
Prends,
pendant
tu joues avec, t'as du fun, t'as pas de problème.
Je pense qu'elle sent pas bon. Quand t'es papa, c'est pas ça. Là, tu te rends compte que la purée, c'est peut-être pas la meilleure pour lui. Si on va arrêter ça, là. T'es-tu un amateur de Messenger, ces trucs-là, toi, pour Facebook?
Un peu, oui, mais moi je suis, en guillemets, vieux.
Ouais.
Je fais des SMS encore.
Hey, yeah. Moi, je parle encore au téléphone.
Non, le Huawei, là.
Non, pas toi, tu fais pas ça?
C'est rare en maudit.
Moi, j'appelle encore. Salut, comment ça va? Puis là, les gens sont là. Il y a du son. Ça sort de là.
Des fois, j'appelle. Ouais. Mais tu vois, même ma blonde, quand j'appelle, elle est tout le temps comme « Allô? » Parce qu'elle, puis moi, on s'appelle jamais.
OK.
On s'appelle jamais. Fait que si je l'appelle, elle se demande qu'est-ce qui se passe.
Qu'est-ce qui parle? T'es-tu correct, Frank? T'es-tu correct? Il y a beaucoup de gens qui nous suivent présentement, des nouveaux. Il y a le gamin du 51 qui est avec nous. Il y a Frankis 10. Il y a également Stav R-I-P-Z, Star Ribs. Il y a Genius 35. Tête de chat qui est avec nous également. Jeff Wave, il y en a un paquet. Il y a Julien BNK, merci d'être là. Stéphane Emmy. Gaël 29 et Martine de Flow, en tout cas Martine, merci d'être là tout le monde. Et un beau merci à Paul Horn 1973 qui est redevenu membre pour un 30e mois d'affilée et Gab Deroy 31e mois d'affilée, c'est très très cool. Il y en a un autre tantôt qui j'ai vu passer qui vient de s'inscrire. Il y en a beaucoup. C'est très apprécié. Merci
puis, énormément. Denis, je m'excuse pour tout le monde qui va se désabonner à cause de ma grosse face.
Non. Hey, les gens... OK, là, sondage. J'ai besoin de votre appui, mesdames, messieurs, parce que là, il ne sait pas s'il va revenir ou pas. Sondage rapide. Ceux qui veulent que Frank revienne, vous écrivez oui dans le chat. Et puis, gênez-vous pas, parce que moi, j'aimerais ça qu'il revienne, le petit maudit. C'est mon fils adoptif, vous le savez. Hein? C'est mon fils spirituel. Quand tu as commencé, M. Net, tu n'étais pas vieux. Hein?
Non.
Hein? T'as souviens-tu? Regarde ça, les oui rentrés. Alarnouche, man. Il y en a plein. Regarde ça.
On a-tu déjà compté la première fois qu'on s'est parlé chez CIPC, toi puis moi?
Non, mais on l'a peut-être déjà fait, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de cette histoire, cette page de vie. Bon, ben je pense que tu n'as pas le choix. Regarde, tu vois-tu les oui, là? Hein? Regarde ça, là. Il y en a plein, là. Ben, zoom in, c'est ta grosse face de gars gêné. Moi, je te connais, là. T'es gêné, là.
Maudit que je t'haïs.
Je sais que tu m'haïs.
Mais parlant de fois où je t'ai haï.
Oui, ah ouais, ça, je me souviens de ça.
Je travaillais chez CPC dans le temps.
Oui.
C'est le même que Denis puis moi s'est rencontré.
Oui.
Et à un moment donné, Denis, il est venu s'acheter un ordinateur pour lui. Ah, Denis, il fait ça dans la vie, s'acheter des ordinateurs.
Ouais, il faisait ça.
Des fois.
Yeah, ouais.
Puis là, ben, c'est moi qui l'ai assemblé et qui l'ai configuré, juste parce que ça a donné de même. Là. C'était pas. À la base, je suis même pas sûr quand je l'ai fait si je savais que c'est le tien.
Non, c'est ça. Jacques qui m'a dit m'a demandé, mon petit jeune, il est bien bon. Tu vois, il va te monter une machine bien tête. Je dis, OK. On se connaissait pas.
Puis là, la journée, il vient chercher son ordinateur. Il demande à Jacques, peux-tu parler au gars qui l'a monté puis qui l'a configuré? Puis là, il fait, ouais, c'est le petit Frank qui est là-bas. Là, j'avais 21 ans.
Tu t'appelais pas Frank dans le temps, tu t'appelais François. C'est vrai. Tout le monde t'appelait François. Frank de Tank n'existait pas.
Frank de Tank n'existait pas, mais il y a du monde qui m'appelait Frank quand même.
Ah oui, OK.
Ouais, ma soeur m'appelle Frank depuis toujours.
Mais pas de Tank.
Non, pas de Tank.
C'est à cause de moi.
Ça, c'est toi.
C'est ça.
Puis là, il vient me voir. Puis, tu sais, il commence par me poser des questions bien ordinaires. Genre, tu sais, c'est quoi le processeur? Il y a combien de RAM? Tu sais, des affaires de même. Puis moi, je réponds. Puis là, plus ça va, plus que Denis me pose des questions de base. Je pense que tu m'as demandé c'est quoi un port USB à la fin.
Oui, oui.
Il me semble que ça allait jusque-là. Puis là, je me suis dit, je le connais pas, ce gars-là. Je veux dire, tu sais, je t'avais vu au magasin 2-3 fois, mais. Je sais pas t'es qui dans la vraie vie.
Non, non.
Je sais t'es qui, j'écoutais le show pis tout, mais on se connaît pas personnellement. Fait que je me suis dit, peut-être que ce gars-là...
Il est cave.
Non, mais il y a peut-être une super bonne équipe de recherchistes, puis c'est peut-être un super bon animateur, mais ça se peut qu'il ne connaisse pas la techno au final.
Ça se peut.
Ça se peut. C'est pas impossible. Fait qu'on va y répondre, honnêtement, parce que ça reste un super bon client de mon employeur, hein? On s'entend.
Jacques et moi, on est tight.
Puis, tu sais, au travers de tout ça, t'étais pas déplaisant. T'étais pas, tu sais, tu posais plein de questions, puis j'y répondais, puis tu me laissais le temps d'y répondre. Moi, ce que je savais pas, c'est que toi, là, le petit maudit, là, tu faisais exprès.
Je passais à une entrevue, moi, là. Je cherchais quelqu'un. Je cherchais quelqu'un qui connaissait l'informatique, quelqu'un qui était capable d'avoir quand même une certaine verve et quelqu'un qui était capable de livrer son message sans bullshiter.
Parce qu'il y avait quelqu'un dans ton équipe qui s'en allait.
Oui.
Et.
Steve Johnson à l'époque. Steve Johnson qui était là, qui voulait aller travailler ailleurs, puis était un petit peu tanné de. Je pense qu'il y avait une nouvelle blonde aussi. En tout cas. Mais. Je te demande, à un moment donné. Non, pas de suite.
Non, c'est ça. Tu finis toutes tes questions. Tu me remercies, tu ramasses ton sac, tu t'en vas. Tu reviens, je pense, une semaine ou deux après. Quelque chose de même. Puis tu vas direct dans le bureau du boss. Bureau à Jacques. Puis là, je me dis, oh non. Là, je suis en train de perdre ma job.
T'es dans la merde.
Là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait, hein, mais il doit y avoir quelque chose. Parce que d'habitude, quand tu rentres, tu sais, les rares fois que je t'avais vu au magasin, tu rentrais, tu disais bonjour au monde, tu sais, puis c'était pas. Là, vraiment, là, il est rentré, puis il est allé direct dans le bureau. Fait que là, moi, j'ai peur pour ma job. Puis là, il sort du bureau. Là, il vient me voir. Il me dit, je sais pas si tu dis François ou Frank, là, hein? Toi, tu te rappelles peut-être. Là.
Jeune homme.
Pas probablement plus jeune homme. Qu'est-ce que tu dirais ça de notre travail avec nous autres?
Ouais.
Je sais pas combien de temps ça m'a pris à te répondre, mais dans ma tête, c'était moins une heure ou deux, là, parce que les secondes me semblaient être une infinité de temps.
C'est ça.
Puis j'ai dit oui, bien sûr, hein, parce que quand Denis Talbot te demande si tu veux venir faire partie de son hiver, tu réponds oui. Puis c'est même, ça a commencé.
Mais écoute, Frank, j'avais dit, moi, je te laisse 5 shows là, pour t'asseoir comme il faut. Puis après ça, on va commencer à te coacher, tu sais, pour commencer à une semaine au moins pour apprivoiser le média puis savoir un peu comment se placer. Puis j'avais dit, je vais te le dire une fois, si tu oublies ton microphone, je te le dis plus. C'est parce que c'est...
Non, mais à cette époque-là, il y avait des fils.
Oui.
Hein? À cette époque-là, les micros, il y avait des fils.
Exactement. J'ai là, tu as une prise, ça rentre dans le mur, puis ça, c'est ton micro. Ton petit micro, il va là, tu rentres ça dedans. Oublie pas, là, parce que je te le dis, je te le dirai plus, parce que j'ai toutes mes affaires à gérer. Ça, c'est ta responsabilité. Ça, apprendre tes affaires, puis aller au make-up. T'as juste ça à faire. Fait que Frank, il est là. Il est content. Il a fait son premier show la veille.
Il est nerveux.
Il est nerveux.
Fait qu'il va à la salle de bain avant.
Ah oui.
Pour aller à la salle de bain, il faut que tu débloques ton micro.
C'est ça. Tu y allais souvent à la salle de bain au début.
Qu'est-ce que Frank oublie, bien sûr? Hein?
Là, le décompte est amorcé. Tu sais, 10, on est en direct. Parti au Québec.
Ah, puis je m'en rends pas compte là.
Non.
On est debout, Denis puis moi, puis on est à côté sur le bureau. Puis là, Denis commence le show, tu sais, bienvenue tout le monde. Ben,
c'est quoi? J'avais pas vu ton micro qui était débranché sur le cou. C'est quand on me l'a dit dans l'oreillette, Denis, il n'y a pas son micro. Fait que là, j'ai dit, OK. Fait que là, je te laisse commencer.
puis là, je dis 3-4 mots.
Excuse-moi, Frank, je donne un micro à pioche, la pioche, là, qu'on appelle le micro à main. Ton micro n'est pas ouvert.
Puis, tu sais, j'ai réécouté ce show-là une couple de fois en VHS parce que dans ce temps-là, c'était des cassettes.
Oui.
Puis, ma voix est pas si pire, mais la main. Ah,
oui,
man. Shake.
Ça y est, l'autos.
Elle shake tout le long. Je tiens le micro ici, là, puis ça shake.
Mais écoute, c'était la première fois. Mais ouais. T'as plus jamais oublié de brancher ton micro.
Non.
Hein, par la suite.
Non.
Il y a une autre fois, à un moment donné, tu faisais une démonstration de quelque chose, je pense que c'était la Steam, la nouvelle petit contrôleur de Steam avec un écran. Tu avais oublié un morceau en haut, ça se peut-tu?
Je me rappelle plus c'était quoi le produit, ouais. Mais oui, je me rappelle toujours la fois où j'avais oublié de quoi en haut, puis je suis parti en courant, hey. Puis j'ai manqué de souffle en revenant, puis là, on allait live. Là,
tu sais, 30 secondes, Frank, t'as-tu dit, oh, oui, je suis en shape. Il part à courir, notre bureau était au troisième étage, court, puis là, il y a des escaliers, puis court. Il ramasse ses affaires, fouille. Il redescend en bas. 3, 2, 1, toc, toc, toc. Alors, je suis avec Frank de Tank. Hey, alors, je suis là, j'ai plus de voix, là. Et puis, ouais, Denis, je suis là. Là, il m'a dit, là, je parlais pour qu'il respire parce qu'il était mauve. Tu respirais plus du tout. Il n'y avait plus de voix, plus de son. Puis, la petite voix comme ça, un filet de voix. Un autre beau souvenir, mon Frank.
À l'opposé de ça, te rappelles-tu de la petite grosse carte vidéo? Hein, ça, c'est toi, là.
Je m'en souviens plus. C'était quoi, là?
C'était une carte vidéo dont je faisais la présentation. Puis, habituellement, Nvidia, à cette époque-là, avait juste trois cartes dans une famille de cartes vidéo. Hein. C'est à l'époque où il n'y avait pas 28 modèles.
Je me souviens plus de ça.
Puis là, c'est une des premières années où il avait introduit une carte entre le milieu de gamme et le haut de gamme.
Ouais.
Puis moi, j'avais dit, tu sais, Denis, avant, il y avait juste la petite, la moyenne et la grosse. Puis maintenant, ils ont comme sorti une petite grosse. Puis Denis, il est parti à rire quand j'ai dit ça. Puis le réalisateur, il a fait des jokes de petite grosse dans
tout
l'oreille.
Long. Ben, tout le long. Parce qu'il s'en passe des affaires dans ses oreilles-là, Frank, pardon, vous êtes en onde. Parce que moi, j'avais un réalisateur qui s'appelle Stéphane Morissette. Qui, lui, c'est un blagueur. C'est un gars qui a toujours le mot pour rire. Mais quand il a sorti la petite grosse, là, regarde, la régie, ça n'arrêtait pas. Des niaiseries de petite grosse, puis de petite grosse, de petite grosse. Puis moi, je suis plus capable. C'est rare que j'ai éclaté en onde. J'ai jamais cassé vraiment en onde.
Moi, c'est la seule fois que je me souviens où j'ai été obligé d'essayer de te ramener à l'ordre puis d'essayer de parler pour toi.
J'étais plus capable.
Une fois en 10 ans. Une.
Mais Momo, il riait puis il broyait lui avec.
Oui.
Et tout le monde pleurait dans la régie. Ça riait. Je vois, je vous fais fi des détails, mais on a ri pas mal. Mais moi, il faut que je garde ma straight face. Je suis pas capable.
Mais non.
Pas capable.
Ça m'est arrivé une fois.
Oui. Mais en tout cas, on a eu bien du fun. Puis je suis content que. Sois là ce soir, puis ça rappelle plein de bons souvenirs. Je m'en souviens plus de ça. Je te demandais si tu parlais de... On parlait de Messenger un peu tantôt, si tu te servais de ça. Tu me disais, bon, plus SMS. Mais Messenger sont en train de, avec nos amis de Zuckerberg, de Facebook, en train d'implémenter un paquet de nouvelles affaires. Entre autres, tu vas pouvoir écrire le nom d'un groupe et le faire jouer dans ton téléphone directement grâce à une nouvelle fonctionnalité. Messenger va s'appeler M maintenant. Tu savais-tu ça? Hein? T'aimes ça? C'est du marketing. M.
Mais tu sais, au début, c'était Facebook Messenger. Après ça a été Messenger. Là, c'est M.
M. Après ça, ça va être...
Ça va être V, genre. Ils vont couper des bouts du M. Il va juste rester un V.
Mais imagine-toi, tu vas entendre la musique. Il y a une association qui t'en teste en ce moment avec Spotify. Et puis, bon, tu peux dire, je veux jouer de la musique. Tu peux écrire le nom du truc. Puis éventuellement, ça va répondre à la voix également pour être en mesure de faire d'écouter ce que tu veux entendre et de faire partager ta musique avec tes copains autour, tes copines. Et puis,
Et que Facebook sache c'est quoi la musique que t'aimes pour qu'ils puissent revendre ça à des annonceurs.
Boom! Comment se fait tu sais ça? Man, c'est incroyable. C'est fou.
Pourtant, ils n'ont jamais fait ça avant. Hein?
Non, jamais, jamais, jamais. C'est tout nouveau. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir... Hey, tu m'appelles, Denis, je suis mal pris, je suis à quelque part à Paris, j'ai plus d'argent. Veux-tu m'envoyer de l'argent? Je vais pouvoir te faire des transferts bancaires via Messenger. C'est-tu pas beau? Ça? Non seulement, ils vont savoir ce que tu écoutes, où tu es dans le monde, puis combien tu as d'argent en banque.
Ouais, la dernière affaire que je veux faire, c'est donner mon information bancaire à d'autres services encore.
Ah, écoute, c'est fou, hein? C'est absolument malade. Donc, on sent que ils n'ont pas assez d'informations encore. Ils en veulent plus.
Ben oui.
C'est fou. C'est fou. Regarde ça, ça va s'arrêter à un moment donné, tu penses?
Non.
Moi non plus. Je pense que plus ça va, on est... T'en souviens-tu quand on chialait? Parce que Hotmail, à un moment donné, hein? Hotmail, était plus, on ne comprenait pas. Là, dans le nuage. Tu sais quand le nuage a commencé? « Hey, penses-tu qu'on va se servir de tout ça? »
Quand ils ont annoncé que Gmail lisait tes courriels pour te faire de la pub, tout le monde a pété sa coche.
Ah, t'en souviens-tu, hein, monsieur Net, on recevait des courriels. C'était 40, c'est indécent pour aujourd'hui. Oh là là.
Aujourd'hui, s'ils faisaient juste lire nos emails, on serait contents.
Oui, c'est ça. C'est vrai, pareil. En tout cas, mais c'est fou, l'évolution. Puis on ne parle pas d'il y a 30 ans. Là.
Non, non.
Ça fait quoi, 10 ans?
Ouais.
10 ans environ, c'est tout. Puis là, on est en train de vouloir révolutionner également le monde du cinéma. Tu sais, Netflix, là, ça a changé bien des affaires dans les vies. Tu sais, c'est parti d'un service postal de livraison de DVD. Puis aujourd'hui, bien, ils sont partout dans nos maisons ou presque. Puis là, on a annoncé une augmentation des frais ici parce qu'éventuellement, on pense que le gouvernement va charger une taxe.
Ouais.
Ah, donc, on monte les prix tout de suite. On va se payer la taxe
c'est
avec
comme le
ça,
gaz,
ça. C'est exactement ça.
Ça se peut que le prix du brut augmente, fait qu'on va augmenter le prix à la pompe au cas où.
Ah, il y a une tempête qui s'en vient dans l'océan quelque part. On a une plateforme là. Et ça va coûter plus cher, il y a une tempête. Mais là, ce qu'ils veulent faire, c'est intéressant avec le cinéma quand même.
C'est un des cofondateurs de Netflix qui a une nouvelle idée. En fait, c'est une idée qui essaie de prendre forme depuis un certain temps. Puis son premier modèle d'affaires, c'est de dire « je vais charger aux gens un peu
ça.
Comme… »
L'infographie, hein? Check ça.
Un peu comme un abonnement de gym.
Ouais.
Fait que ses premiers tarifs, me semble que c'est comme 30-40$, quelque chose comme ça, par mois. Puis là, l'idée, c'est que c'est pas tout le monde qui va aller au cinéma assez souvent pour que ce soit pas rentable. Parce que c'est ça, ça te garantissait que tu puisses aller voir à peu près n'importe quoi parce que il y a quand même des restrictions pour, je pense que c'est IMAX et IMAX 3D ou choses comme ça, mais tu sais, les billets les plus chers étaient pas couverts, mais sinon, tu peux aller voir n'importe quel film autant de fois que tu voulais. Puis tu faisais juste passer ta carte au cinéma. Puis le cinéma chargeait ce service-là. Mais là, ils viennent d'annoncer leur nouveau plan qui est 10$ par mois.
Ça, c'est cool, ça.
Ça, c'est le prix moyen d'un film.
Ouais.
Puis tu peux aller en voir autant que tu veux. Mais là, ils sont pas partout. parce que...
C'est un test.
C'est un test.
En temps bêta. J'aime ça, mon appellation bêta.
Mais si jamais ça se met à lever, cette histoire-là, ça pourrait être très intéressant parce que même si, au final, ça me coûterait probablement pas moins cher que ce que je dépense en ce moment au cinéma, moi, je suis le genre de gars à dire, voici de l'argent, là, je veux pas avoir à y penser, là, puis je veux juste y aller quand ça me tente, puis that's it.
Moi, je trouve ça bien.
Oui.
Parce que tu veux rester au cinéma et écouter 3 films, là.
Garde-toi.
Dans du popcorn, là, dans ta grosse chaise, bien confortable.
Puis en plus, s'il y a une affaire sur laquelle ils font du profit, c'est le popcorn. Fait que les autres vont être bien contents si tu achètes 3 fois du popcorn en journée.
Achète un gros pour la journée. Non, mais ça va prendre forme quand? Est-ce que les tests sont déjà amorcés?
Ben, là, ils viennent de lever un peu d'argent. Okay. Parce que, étant donné qu'eux payent le cinéma pour chaque fois que tu y vas, ça leur demande quand même un petit fonds de roulement pour être capable de s'assurer que. La deuxième fois dans le mois que tu y vas, il leur reste encore l'argent. Là.
Puis, vu qu'ils sont avec Netflix, ça veut-tu dire qu'on va des...
avec.
Non, c'est pas un fondateur.
C'est un des fondateurs de Netflix qui a parti sa patente.
Bien, imagine-toi s'il fait une association avec ses partenaires présenter les productions de Netflix sur grand écran, mon vieux.
Ça pourrait être intéressant.
Hein? Regarde, c'était mon chum, toi, là. Moi, je me prends une patente. Hey, chum... J'ai des cinémas, 10 piastres, je te donne une ristourne, on mène au pub, on mène aux affaires, on plug notre Netflix, on... Tu sais, la roue tourne, mon Frank. Money, money, money!
Parce que quand on parle des compagnies qui opèrent des cinémas aux États-Unis, on parle de... Non, excuse-moi, les 4 plus gros opérateurs de cinéma, et non pas juste aux États-Unis, ils ont perdu 1,3 milliard en valeur boursière après un été décevant. Puis pourtant, il y en a eu plein des films cet été. Là.
Ouais.
Mais
les gens sortent moins pour aller au cinéma peut-être aussi parce que maintenant, ils font du binging. Ils écoutent la série au complet. Là.
Non, mais il y a aussi, tu sais, là, tu vas peut-être être surpris.
Je suis surpris.
Ils ont monté les prix les dernières années pas mal.
Ah bon? Ben, peut-être que ça coûte trop cher aller au cinéma aussi. Hein?
Peut-être. Sauf que peut-être que si tu disais à tout le monde que tu as un abonnement mensuel puis que ça garantissait un certain revenu au cinéma, ça pourrait peut-être changer leur modèle d'affaires pour que, au lieu d'essayer d'aller chercher juste les gros films, qui vont essayer d'être le plus rentable possible. Là, ils peuvent juste essayer d'aller chercher un paquet de films ou une plus grande diversité dans l'objectif de juste attirer plus d'êtres humains dans le cinéma, mais sans nécessairement devoir que chaque film soit hyper rentable parce qu'ils ont quand même un capital de roulement garanti.
Je suis pas sûr que c'est tout le monde qui va passer des journées au cinéma non plus.
Non,
vas avoir peut-être un ou deux dans les débuts. Par la suite, ça, comme tu dis, ça t'assure un fonds de roulement pour... t'assurer d'autres productions, d'aller chercher d'autres films puis de faire vivre ta patente.
Puis ça te permet aussi, potentiellement, en tant que cinéma, de prendre plus de risques.
Ouais.
Là, va falloir voir comment est-ce que tout ça est géré. Là. Mais si l'industrie du cinéma se met à avoir un certain revenu récurrent garanti, c'est un peu comme ça que Netflix a pu se permettre de faire un paquet de séries puis de dépenser bien de l'argent en n'étant pas trop sûr ce que ça allait donner parce qu'il y avait un certain roulement garanti. Donc là, c'est sûr que l'argent mensuel irait à une compagnie qui, en ce moment... comme modèle d'affaires de juste payer à la pièce les cinémas, mais on peut s'imaginer qu'éventuellement, il va y avoir des espèces de modèles de ristourne où ça va plus être chaque cinéma a une certaine cote s'il participe au plan puis de ce genre de choses-là.
Je serais curieux d'avoir l'opinion d'un propriétaire de ce genre de salle conventionnelle qui opère dans le moule actuel. Je serais curieux de voir comment ils réagissent par rapport à une annonce comme celle-là.
Oui, en tout cas, moi j'ai bien hâte de voir combien de temps ça va prendre avant que ça se rende jusqu'ici. Parce que c'est ça, ça a été fondé en 2011.
Ça fait longtemps qu'ils essayent, ouais.
Là, c'est la fois où ils se disent on va essayer le plan vraiment cheap pour que les gens aient pas vraiment de raison de dire non, puis on va voir où ça se rend.
Une fois que tu as atteint ton public, ta marge là, critique, tu peux monter tes prix après.
Oui.
C'est ce qu'ils ont fait avec Netflix. Mais là, c'est parce que je pense qu'ils veulent nous refiler la taxe de la taxe pour le Québec. Là.
La taxe, on n'est même pas sûr qu'elle va exister.
Oui, c'est ça. Mais ils se préparent. Ils font des fonds. D'autre part, t'aimes-tu George Lucas? Hein? C'est Monsieur Star Wars.
Non.
Pas plus que ça. Hein? Mais lui, il est bien content parce qu'il a fait de l'argent avec ça. Ah, ça va bien. Puis là, ici, regarde, il est content. Regarde sa chemise, il va péter. Tension. Et des boutons en avant. Tension. Monsieur Lucas fait aujourd'hui, donne dans le vin. Hein? Il y a un truc qui s'appelle Lucas Vineyard. Et M. Lucas s'est dit, « Hey, écoute bien, où c'est qu'on peut... Où c'est que je pourrais bien aller pour m'adonner à mon passe-temps favori de la création du vin, de macérer le vin, faire toucher les mains dans la terre, vivre le moment, tu sais. » Alors, il s'est dit, « Je vais aller m'acheter un petit domaine. » Alors, il est allé faire un tour. Il a fait l'acquisition du château Marguis, une propriété viticole à Châteauvert, dans le Var. Et c'est une transaction qui aurait coûté pas loin de 9 millions d'euros.
Et, seulement ça.
C'est ça. Et c'est une belle place. C'est vraiment joli. C'est, je fais visiter le propriétaire. Je me sens un peu comme un agent d'immeuble. Alors, ça appartenait à un vieux curé. Non, c'est vraiment, c'est une belle place. Il va aller faire son vin là-bas et pour éventuellement l'importer aux États-Unis un peu partout. Et c'est un château qui a beaucoup de vécu. C'est, ils font des vins qui sont vraiment super bien, paraît-il. Le Coteau Varois de Provence, en Provence.
Et lui... J'espère juste qu'ils ne vont pas lui donner la même liberté créative qu'il y a eu avec épisode 1, 2, 3, parce que on s'entend, là.
Oui.
George Lucas a des super bonnes idées sur papier.
Oui.
Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'entendent pour dire que 4, 5, 6 ont été bons parce qu'il y avait du monde autour pour y dire « chut, 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 ça, c'est une mauvaise idée. Va te rasseoir là-bas, mon Georges. »
Mais là, il vient d'acheter donc ce truc-là. Je pense qu'il a un certain talent pour... Il s'est bien entouré, probablement, parce que maintenant, on va faire non seulement du vin, mais il y a des huiles également. Et c'est un château, un vignoble qui a gagné beaucoup de prix. Donc, M. Star Wars vient de faire l'acquisition de ce truc-là et son vin devrait être disponible très, très bientôt, même ici au Canada, nous dit-on.
Moi.
Non, c'est pas, ça te
je retiens pas mon souffle.
Non, tu penses pas que ça va être une bonne chose?
Je sais pas. Encore une fois, tu sais, si c'est bien entouré et qu'il écoute le monde autour de lui, ça va super bien aller.
Probablement que c'est le cas.
Mais s'il pense qu'il connaît ses affaires et qu'il est capable tout seul, non, comme il a fait, il dit non. Fait que tu sais, je serais pas surpris s'il avait un super bon succès, bien entouré, pendant quelques années. Puis après ça, il était comme, moi je connais ça. Puis là,
oh, bang. On fait de la root beer. Root beer française. Parlons un peu de vie privée, parce qu'on a parlé un petit peu tantôt. Il
oui.
Y a Dreamhouse qui arrive avec une nouvelle intéressante, encore une fois. Dreamhouse qui s'occupe de protéger la vie privée des espèces d'ombudsman, si on veut, de la vie privée américaine, c'est ça?
Il essaye. En fait, c'est qu'il y avait un site web qui avait été lancé pour essayer d'organiser des efforts de protestation, manifestation autour de l'inauguration de Donald Trump.
Ouais.
Et il y a plusieurs démarches en justice de la part du département de la justice aux États-Unis pour essayer de poursuivre de ces gens-là. Il y en a, je pense, 200 qui sont en cours actuellement.
Ils veulent avoir les informations personnelles, savoir qui étaient ces gens-là pour éventuellement les punir, c'est ça?
Mais en fait, c'est, les gens s'attendaient à ce qu'ils fassent c'est ça, différents recours pour obtenir de l'information sur des gens en particulier. Mais là, ce qu'ils ont demandé, c'est on aimerait ça savoir tout le monde qui est allé sur le site web.
Ben voyons donc.
pas, tu sais, tous les logs de toute l'information, en fait, que vous avez par rapport à ce site web-là.
Juste pour la fun, toi qui es là-dedans, ça représente combien de boîtes de carton? Il doit en avoir du stock, hein?
Il doit en avoir du stock. Et c'est que Dreamhouse estime que c'est à peu près 1,3 million de visiteurs.
C'est fou, hein?
Uniques. Donc, en gros, c'est qu'ils veulent avoir de l'information pour leur permettre d'identifier 1,3 million de visiteurs, alors qu'en ce moment, en cours, ils ont 200 personnes. T'sais, on s'entend, le prorata est quand même peut-être un petit peu intense. Et que c'est ça, il n'y a aucune mention dans leur demande de « on veut juste eux autres » ou « on veut juste les gens avec tel profil » ou « les gens qui se sont inscrits, qui ont créé un compte ». C'est vraiment tout le monde qui est allé, tout le monde qui s'est créé un compte, on veut leur information personnelle qu'ils ont mis dans leur information de compte. S'ils ont fait des posts, s'ils ont uploadé des photos, s'ils ont, on veut tout.
On veut tout savoir. Sauf que eux autres, c'est des avocats aussi, c'est la gang de Dreamhouse, c'est ça?
Oui, c'est leurs avocats qui essaient de combattre ça en justice en disant justement il n'y a pas de base légale qui justifie une information aussi large. On n'a pas problème si, tu sais, il y en a qui ont flippé des chars, là.
Oui.
Fait que ceux qui ont flippé des chars, si vous nous dites, genre, je veux que vous me confirmiez ou que vous m'infirmiez si telle adresse IP est allée sur le site web, parce que ça, on a retracé que c'est l'adresse IP du gars qui a flippé les chars. Ça, de ce que j'ai compris, Dreamhouse est relativement zen avec ça. T'sais, ils ne veulent pas essayer de faire obstruction à la justice.
Pour ce qui est du reste.
Mais on s'entend là, le 1,8 million, 800 000, en tout cas. 899 800, ça, c'est peut-être un peu abusif.
Man, lui, ça me fait peur ce qui se passe l'autre bord. Là. Nos voisins sont en train de flipper. Là. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment... ça me donne la chienne. Je m'en vais à Seattle, puis je n'ai pas le goût d'y aller des fois. Je me regarde ça. Qu'est-ce qu'ils font là? On est en 2017, calvaire, tu sais.
On va voir comment ça se déroule, parce que c'est supposé passer en cours ce vendredi, en fait. Donc, après ça, combien de temps ça va prendre pour qu'ils fassent la délibération puis toute la patente? Ça, on n'en a aucune idée. Mais c'est quelque chose qui se passe là. C'est Dreamhouse qui, justement, a dit, dans l'injonction qu'on a reçue, qui nous demandait de produire tous ces documents-là, il n'y avait aucune mention qu'on n'avait pas le droit d'en parler. Donc, avant que ça aille en cours, on en parle.
Ben, c'est un bon move.
C'est pas un mauvais move.
C'est bien réfléchi. On voit que c'est pas la première fois, probablement, qu'ils vont faire des tours en cours, justement.
C'est non, puis c'est à se demander, veux-tu bien me dire pourquoi que le département de la justice américaine, je veux dire, à part essayer de se tirer dans le pied volontairement parce que tu penses que ce que tu fais, c'est mal, mais ton boss t'a demandé de le faire, là, pourquoi est-ce que tu ferais une demande d'information aussi large sans aussi inclure là-dedans que la personne n'a pas le droit de divulguer ta demande, au moins jusqu'à temps qu'elle soit traitée, tu sais? Ouais.
C'est une petite précision, je viens de voir passer. George Lucas sort du vin. Il est déjà dans le vin, Lucas. Okay. Lucas Vineyard, qui existe déjà depuis un certain temps. Le temps file, Frank. 21h05. J'aimerais ça qu'on parle de cette fameuse poignée de porte qui est vraiment une poignée de porte intelligente. Et je pense qu'elle est devenue un peu moins intelligente récemment, c'est ça?
Ça, c'est tellement beau, là. C'est une compagnie qui avait un partenariat avec Airbnb. Mm-hmm. Et ils faisaient une poignée de porte qui était Wi-Fi et intelligente. Puis ça permettait aux gens de dire « Je veux générer un code qui va fonctionner juste pour telle période ou juste pour ce nombre de fois-là, ou peu importe. »
La poignée de porte!
Pour que toi, si tu loues un appart Airbnb, tu n'es pas obligé d'aller porter des clés à quelqu'un. Tu fais juste y envoyer son code, puis tu es sûr qu'après ça, quand tu as décidé que le code ne fonctionnait plus, la personne ne peut plus rentrer chez vous.
That's it. C'est une période de temps bien précise. C'est intelligent, c'est bien pensé.
C'était parfait pour les besoins d'Airbnb. Le hic, c'est que apparemment cette poignée de porte-là supportait des mises à jour par les internets, mm-hmm. automatiques.
Oh.
Hein, ça, c'est le bout important de la chose.
On aime ça, hein, automatique.
Et il semblerait qu'il n'aille pas nécessairement penser à qu'est-ce qui se passe si jamais ça chise. Et,
ça l'a chisé.
Ça l'a chisé. Ouais. Donc, il y a une quantité indéterminée de poignées de porte qui ont été mises à jour avec un firmware brisé, donc un micro-logiciel brisé. Et... Le pire là-dedans, c'est leur réponse au problème. Parce que dans la lettre qu'ils ont envoyée à leur client, puis là, lettre, j'imagine, c'est un courriel. Là.
Je l'ai ici.
Ça dit, l'option 1, c'est t'enlèves l'arrière de ta serrure, puis tu nous la retournes, et on va te l'arranger, puis t'as retourné en dedans d'à peu près une semaine.
Oui, la porte va rester débarrée pendant une semaine.
Oui, c'est ça. T'as pas de serrure, ou tu vas t'en lâcher un autre. Ou l'option 2, qui est pire, c'est tu peux laisser ta serrure-là, qui, soit dit en passant, fonctionne plus, parce que, tu sais, briquet. Nous, on va t'en envoyer un autre d'ici deux semaines et demie.
C'est bon. Puis s'il y a des gens dans l'appartement, ben tu leur donnes de l'eau en dessous de la porte. Je sais pas trop.
Puis tu sais, ils disent, on réalise l'impact, puis là, on le voit à l'écran, là, on réalise l'impact que ce problème-là a potentiellement sur toi et ta business, et on est vraiment désolé.
Ouais. Ça peut faire tuer, ça peut tuer une business simplement.
Tu sais, puis on va payer pour l'envoi de ta serrure. Ah, je capote.
Mais là, t'as-tu vu sur le forum de discussion? Ils se font ramasser, man, c'est l'enfer. On parle de poursuite. Là, t'es aux États-Unis, là, fait qu'ils vont se faire. Écoute, ça peut être final Boston, comme dirait l'autre.
Puis, tu sais, t'as différentes choses que tu peux faire pour essayer de prévenir ce genre de situation-là dans le merveilleux domaine de la technologie. Puis, une des approches qui est relativement fréquente, puis qui semble pas n'avoir été utilisée ici, c'est de dire. Dans ma petite patente, là, il va y avoir deux puces dans lesquelles je store mon micro-logiciel. La version courante, puis la version que je veux mettre à jour. Fait que quand je fais mise à jour, j'update un, je reboot là-dessus. Si ça fonctionne, tigidou. Sinon, je retourne à l'autre. Fait que comme ça, quand tu fais mise à jour, si ça chise, tu peux essayer de revenir à l'autre. T'sais.
Mais en faisant ça, tu es obligé de charger, de mettre ta poignée de porte plus chère.
Oui. Oui, oui. Faut que tu mettes la puce deux fois. Tu sais, la puce qui coûte 75 cents.
Oui, oui. Non, mais écoute...
Ouais, fait.
Ça coûte cher.
J'espère que pour la prochaine version de la poignée de porte, ils vont penser à ça.
Aïe, aïe, aïe. Là, le temps file. C'est quoi ton histoire de théière?
Ça, man, hey, ça, je suis tellement heureux de ça.
Ça, c'est une joke de programmeur. Ça,
ça c'est une vieille joke de 1er avril de 98.
OK.
Il y a tout plein de codes officiels sur les internets pour les réponses quand tu fais des requêtes sur le web. D'habitude, 200, ça veut dire que ça fonctionne bien.
404.
404, on l'a pas trouvé.
Ouais. Il y a Twitter qui dit « Ah, l'oiseau a quitté le nid, ça ne fonctionne pas » ou « Il n'y a personne dans ce château », des trucs comme ça.
Mais les codes sont standards. D'ailleurs, si vous voulez découvrir les codes, vous pouvez aller sur http.4/ numéro du code que ça vous tente. Puis si c'est un vrai code, ça va te retourner une image de chat qui t'explique le code. C'est magique. je l'utilise au bureau régulièrement pour
c'est quoi HTTP?
HTTP.
Attends, faut que je vois ça live. Là. Attends une, deux minutes, je fais un petit mix, boom. HTTP, bon.
Faut que HTTP.4.
4.
Comme chat, là.
Ah, chat, OK. Chat, oui, 4. Excuse-moi.
4.
4, oui.
Enter.
Enter. Boom. Ah, non, non, non. Puis là, tu rentres, mettons, 404.
Puis là, tu peux choisir tes codes.
Gosh, c'est
puis là, si tu cliques sur le code, ça va t'afficher une image qui va t'expliquer
Continue
avec un chat qui vole dans les airs, donc il est clairement en train de continuer. Et là, tu vois, si tu vas à 418...
Oh, un instant, lui, 403, forbidden, boire dans la toilette. 418, il est où?
418, continue, descend, 418!
Boom!
418 qui est I'm a teapot. ça, c'était une blague, c'est ça, du 1er avril, parce qu'il y a apparemment plein de codes. Ben, apparemment. Il y en a sur lesquels j'ai cliqué, que j'ai jamais croisé dans ma vie, qui sont des affaires qui font pas vraiment de sens. Et il y a eu plein de demandes de codes encore plus loufoques. Fait qu'il y a un dude qui avait inventé ça à un moment donné. Puis il y a différents langages de programmation qui avaient implémenté ça pour vrai. Si tu programmes en Go dans la vie, puis que tu fais un serveur web avec, il supporte le code 418 si jamais tu appelles puis tu veux retourner ce code-là, I guess.
Ben, ça a commencé comme une blague, cette histoire-là.
C'est ça. Mais là, il y a un dude qui a essayé de demander à différents langages de programmation d'enlever ça parce qu'il disait que c'était non standard, parce que techniquement, ça ne fait pas officiellement partie du standard. Mais bien sûr, l'Internet aimant les choses ridicules, ils ont parti un site web qui s'appelait Save418.
Ça, j'aime bien ça, Loop Detected.
Qui s'appelait Save418 pour essayer de sauver le code 418 et semblerait qu'il aurait réussi parce qu'il y aurait eu une demande officielle de réserver le code 418 dans les standards de l'Internet qui aurait été déposé et qui serait en voie d'être approuvé. Donc, le code disant « I'm a teapot » va continuer. Et la blague, en fait, c'était de dire « Moi, je crée un protocole qui sert à gérer les théières sur Internet. Et le code 418, c'est si jamais tu me demandes de faire du café, je vais te répondre un code 418 qui est un code d'erreur pour te dire je suis une théière, je ne peux donc pas te faire du café. »
OK. Ah non. C'est une niaiserie, finalement, qui a fait son petit bout de chemin.
Oui, et dans l'article, ils font une blague en disant, tu sais, maintenant qu'on est rendu avec l'Internet des objets, peut-être que le code 418, je ne peux pas te faire du café parce que je suis une théière, va finir à servir pour les théières Internet, hein?
Pensez-y. Parlez de ça demain avec l'être cher au déjeuner. Pourquoi pas? Dans la catégorie Captain Obvious, maintenant.
Ah, oh, man. Si tu as des services qui te permettent des modes de transport alternatifs de façon abordable et facile d'utilisation, tu vas moins utiliser ton char.
C'est logique.
Ça a l'air qu'il y a du monde qui sentait le besoin de faire une étude là-dessus.
Lyft plus Uber égale...
Moins de char.
Moins de char. C'est quelqu'un qui a fait une étude là-dessus.
Oui, mais en fait, leur... domaine, l'endroit où ils ont fait l'étude, c'est intéressant parce qu'ils ont fait l'étude dans une ville qui a connu Lyft et Uber. Et cette ville-là, ensuite, sont partis pour des raisons légales parce qu'il y a tout plein de villes et d'États qui ont décidé qu'ils ne toléraient pas ces services-là.
Donc, il y a peut-être plus d'auto.
Et donc, il y avait vraiment un avant ces services-là, pendant le service et après les services. Et ils ont remarqué qu'effectivement, dans leur groupe qui ont contrôlé, je pense, 1200 personnes, il y avait plus, non seulement d'utilisation de l'auto, mais plus d'achats d'auto aussi qui ont été faits. Donc, si tu as moins accès à des moyens de transport, tu vas être obligé de te débrouiller tout seul.
Obvious. Capitaine Évidence. Non, mais il y a des gens qui ont été payés pour faire cette étude-là, probablement. C'est ça qui me déprime un petit peu.
Moi, ce que je serais surtout curieux, c'est de rencontrer quelqu'un qui est surpris par cette étude-là. Parce que rendu là, tu te dis, si on fait l'étude, c'est sûrement parce qu'ils sentaient le besoin de convaincre du monde. Qui c'est qui a besoin d'être convaincu de ça?
C'est logique, il me semble. Je ne sais pas. En tout cas. D'autre part, on parle beaucoup de réalité virtuelle et on va clôturer avec ça parce que le temps file. Ça fait, on a busté de 15 minutes, mon Frank, comme d'habitude.
Comme d'habitude.
Parle-moi un peu de ce. Ça, c'est plus un for the win.
Un big win, celle-là. Ouais. C'est des adolescents, et en fait, un adolescent qui s'est monté un espèce de groupe caritatif.
Oui.
Mais le dos de 18-19 ans, là, dont le but est d'essayer d'offrir du soutien et du divertissement aux personnes âgées et aux handicapés via la réalité virtuelle. Ce qui est super intéressant parce que ce qu'il explique dans l'article, c'est que, premièrement, lui, il essayait d'utiliser le jeu vidéo pour aider les gens qui sont dans des situations, soit des séjours longs dans les hôpitaux ou c'est ça, des gens qui ont des handicaps, comme la personne qu'on voit ici qui, on raconte son histoire au travers de l'article.
Mobilité
réduite au maximum. Ce gars-là n'a même pas la capacité de parler. T'sais, fait qu'en partant, échanger, c'est rough. Mais avec la réalité virtuelle, ça lui permettait de faire un paquet d'affaires ordinaire. Puis ce qu'il explique dans l'article, c'est que les personnes âgées trippent à genre retourner faire de la plongée ou faire du ski ou faire, t'sais, un paquet d'affaires qu'ils faisaient avant puis qu'ils sont plus capables.
Les enfants malades aussi.
Et il y a un paquet de gens malades ou en mobilité très réduite. Les gens que ça fait longtemps qu'ils sont à l'hôpital, eux, ils jouent à Life Simulator ou Work Simulator puis ils vont jouer à genre travailler dans un dépanneur juste pour connaître quelque chose de complètement différent de ce qu'ils font qui les sort de leur quotidienneté. Puis tu sais, ils font des jokes là-dessus en disant ça a l'air un peu plate pour nous autres, mais eux autres, ils voient les mêmes quatre murs à longueur de journée depuis je sais pas combien de temps. Et il dit que la réalité virtuelle, ça l'a vraiment aidé à rendre ça accessible parce que les contrôles sont beaucoup plus intuitifs.
C'est facile. C'est comme dans la vraie vie, ou presque. T'sais.
C'est à peu près comme dans la vraie vie.
C'est ce jeune-là qui fait partie, qui a, je me souviens plus de son nom, malheureusement, là, et qui a initié le projet. Et,
Dylan Hill.
Exactement. Donc, c'est dans quel coin des États, là, c'est-tu?
La Californie.
Californie. Donc, Dylan Hill for the win. Hein, regarde ça.
Il est vraiment... je trouve ça super intéressant. Puis en plus, ce qu'il explique dans l'article, c'est qu'il rencontre des gens chez qui ce gars-là et son équipe sont allés qui disent à quel point il était professionnel, il était préparé, il était bon communicateur. Puis tu sais, le gars, il a 18 ans. Là.
Ouais.
Fait que c'est pas comme si ça faisait 15 ans qu'il faisait ça. Là. Fait que je trouve ça aussi le fun de voir que non seulement c'est une belle initiative, c'est pour encourager des gens. Puis au final, le bonhomme en mobilité très réduite qu'on a vu tantôt, ils lui ont donné son kit. Parce qu'ils vont chercher des dons puis récolter de l'argent pour, au final, qu'il n'y ait pas de coût pour les gens qui ont besoin de tout ça puis qui peuvent en retirer du plaisir. Fait que si ça peut permettre d'amener de la joie du monde ou de leur faire redécouvrir des expériences d'antan, moi, je me dis chapeau, chapeau.
Moi, quand ma mère a découvert l'Internet, ça a été une autre affaire. À la fin des aventures du Grand Talbot, je me promenais avec un laptop, avec une caméra. On allait en Allemagne, on allait partout. Puis, je communiquais avec ma mère et je me souviens, on était en Allemagne, j'étais sur un toit vert. Tu sais, il y avait des cultures, tout ça. Je me promenais sur le gazon avec. Je m'engage sur un toit en ce moment. Puis, à un moment donné, on est allé au Louvre, même chose. Je me promenais avec ma mère dans le laptop. Puis, quand ta jase, elle est allée au Louvre.
Ah,
ouais. Tu sais, indirectement. Ben, pas vraiment. Tu sais, elle se rend compte que. Pas vraiment, mais j'ai vu des telle affaire. Mais imagine, ça, c'est un step de plus. T'amènes ça à un autre niveau complètement. Quelqu'un qui n'a jamais marché, qui saute en parachute ou qui fait des trucs qu'il ne pourrait pas faire normalement, c'est magnifique.
Puis toutes les gens qui ont connu une vie beaucoup plus active, qui maintenant sont limités, qui peuvent essayer d'expérimenter ça à nouveau.
Ouais.
Je ne sais pas si tu as écouté la série Black Mirror.
Oui, super bon.
Il y a un épisode justement où les gens peuvent retourner dans le passé pour revivre leur vie d'antan. Comme c'était à l'époque, puis être aussi actif, puis être aussi plein d'énergie qu'il l'était dans le temps.
Ah non, c'est vraiment quelque chose de très bien. Je vous invite à la suivre, cette série-là. C'est court. Il y a un truc sur les médias sociaux, entre autres, avec Facebook, un espèce des likes, puis jetez un coup d'œil là-dessus si vous l'avez pas vu. Qu'est-ce qui passe de bon avec toi, à part ça? Que c'est-tu des projets, des trucs? Voyages-tu bientôt? Tu te promènes-tu? Qu'est-ce que tu fais?
Je fais pas énormément de choses, à part faire pousser ma barbe. Je joue beaucoup trop à Zelda.
Oui, il paraît que tu es un fan de Zelda. Tu es un gros maniaque. Là. Tu joues pas mal.
Je joue pas mal trop.
Est-ce que tu joues en couple?
Ben, oui et non, dans le sens où ma copine et moi, les deux, on joue. Mais quand on fait des bouts que l'autre n'a pas fait, ben là, on joue juste sur la version tablette pour pas essayer de faire trop de spoilers. Mais ça nous arrive de jouer. Puis c'est une affaire que je trouve super le fun. Si jamais vous êtes un fan de Zelda, vous avez joué à ce jeu-là, vous connaissez d'autres mondes qui jouent aussi, regardez les jouer. Moi, j'ai un fun noir à voir à quel point ma blonde trouve des solutions différentes des miennes aux puzzles, parce que les puzzles ont toutes plein de façons d'être résolus. Puis des fois, elle pense à des affaires auxquelles j'aurais jamais pensé, puis des fois, elle se complique la vie alors que moi, j'ai trouvé des solutions plus simples. Mais tu sais, elle trouve jamais juste des solutions plus compliquées ou plus simples. Des fois, je me dis, maudit que c'était moi le moron dans cette histoire-là. Fait que c'est aussi intéressant de voir toutes les façons que tu peux aborder un problème dans ce jeu-là, toute la liberté que ce jeu-là donne. Puis je l'apprécie beaucoup plus maintenant que je peux la regarder jouer pour regarder, essayer de résoudre les mêmes puzzles que moi, j'ai réussi à résoudre.
Moi, j'ai abattu un arbre pour traverser une rivière.
Oui.
As-tu fait ça?
Oui.
Ça, c'est cool. Mon fils, il me dit, « Ah, qu'est-ce que tu fais, père? » Papa se sert de sa tête. Mon fils, c'est de son hache. De son arche, éventuellement. Frank, c'était un plaisir de te revoir. J'espère que tu vas revenir parce que les gens ont voté et les gens ont dit oui. Bring back FFT. Regarde, c'est marqué. Écoute, je ne veux pas te faire de pression, mais écoute, ta pression sur tes épaules.
Tu ne veux pas me faire de pression, mais j'ai la pression, c'est ça?
Pas te faire de pression, mais regarde ça, cette belle face-là. Regarde ça, là. Les gens s'ennuient. C'est un autre gros plan, tu veux, Quentin. Regarde ça, là. I bring back the FTT. Frank de Tank.
C'est un plaisir, Denis. J'ai du fun pour vrai. Puis honnêtement, la raison pour laquelle je viens plus, c'est.
Parce que c'est ça le tâche-camp.
Oui.
Non, tout le monde dit
parce qu'on saillit.
C'est ça, on saillit tellement.
Mais c'est juste que, honnêtement, j'ai une vie beaucoup moins active que je l'avais avant, juste parce que j'ai réalisé à un moment donné que j'étais un gars beaucoup plus fatigué puis que j'avais besoin de ralentir un peu plein d'affaires.
C'est normal. Dans la vie, à un moment donné, des fois, la vie nous pitch des curves dans la face.
Ah, man.
Tu sais, fait que faut que tu prennes le temps de te grandir puis de retrouver ton chemin dans toute cette merde-là. Là, je sais que ça m'est arrivé, ça t'est arrivé aussi. Puis tu m'avais dit à un moment donné, quand je vais être prêt, je vais revenir. T'es-tu prêt?
On verra, on verra.
Mais ben, écoute, je ne me mets pas de pression. Je fais des pas... blagues. Je fais beaucoup de blagues. Là. Fais pas de promesses que
non,
tu
ne
pourras pas tenir.
Mais je ne veux pas rentrer dans les détails de ma vie privée, mais je peux te dire, pour que les gens aient une idée d'à quel point ça a été intense pour moi l'année où M. Net a arrêté, j'ai passé un 6 mois sans jouer à un jeu vidéo.
Ben, je peux.
Fait que tu sais.
Je peux vous témoigner de ça, c'est vrai. Puis, tu veux, je n'ai pas fait de pression.
Non.
Au contraire, j'étais là pour toi.
Oui, ça aussi, c'est vrai. Mais non, fait que c'est pas que je fais autre chose ou c'est pas que. C'est juste que j'ai eu besoin de prendre ça relax. Puis
c'est très correct.
Tranquillement, peut-être, on vient.
Prends le temps qu'il faut, puis t'es toujours le bienvenu, man.
Mais oui, puis j'ai toujours du fun.
Puis il y a toujours
T'as-tu
de la bière.
J'ai du fun.
Merci beaucoup à Simple Malte. Hein? Dis merci à Simple Malte, au moins. Là,
merci,
hein?
Simple Malte.
Exactement. Et merci à tous nos commanditaires. Frank, tu reviens comme tu veux, quand tu veux, puis il va essayer d'avoir le gros gagnon. Hey, gagnon, le gros. Hey, le gros. Hey, le gros. Et attends, on a gagné, on va sûrement en faire un tour. Ça sera le fun avec Ian Richards. Et on a une tonne de plaisir.
Hey, man. Mais là, il va falloir que tu prépares, là, parce que si tu penses que 20 minutes d'overtime, c'est long, si tu ramènes ces deux autres-là, nous quatre, là.
Alors, on va faire un spécial. C'est ceux qui nous suivent depuis quelques années. Hey, on fait-tu un show spécial? Un show surprise.
Oui, on fait un show surprise.
Show surprise, c'est ça, on l'a jamais fait. Mais là, c'est une belle surprise que tu vois là ce soir. Merci, Ian. Ian Richards, merci d'être en vacances. Non, merci, Frank, d'être là.
Merci à toi, Denis.
Et puis, tu reviens, comme je te dis, quand tu veux. Merci à vous tous et toutes. Merci aux nouveaux qui sont là. Faites passer le message. Radio Talbot, c'est mieux que M. Net. Regarde, chez nous, en plus, on a de la bière. Puis, il n'y a pas un boss qui nous fait suer. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Attention à vous autres. On se retrouve demain pour un autre Radio Talbot. Attention à vous autres. J'aurai des bonnes nouvelles bientôt pour vous autres. Salut, bonne soirée. Le piton est levé. Oui, 1, 2, 3, bye!
Cette émission est rendue possible grâce à la participation de Microsoft Canada. Cet espace vide pourrait être le vôtre. Bon. Vous désirez faire connaître vos produits ou services? Pourquoi ne pas le louer? Nos tarifs sont très, très abordables. Contactez-nous. Publicité@radiotalbot.tv